déjà entendu parler de non-dualité, de perspective non-duelle. D'accord, il y en a beaucoup qu'on n'a jamais entendu parler. On parle souvent de non-dualité, enfin, pour ceux qui connaissent tout ça, d'éveil, de choses comme ça. Et j'aime bien parler de perspective non-duelle. Pourquoi perspective ? Parce que il s'agit vraiment d'un changement de perspective. D'une façon générale, nous avons tendance à être scotchés, collés à ce qui se passe, à ce qui nous arrive, à ce qui arrive dans notre vie, à moi, à mes proches, à croire à, j'ai envie de dire, à l'histoire qui se raconte au sein de cet organisme. Vous prenez n'importe quel événement dans la vie, enfin pas n'importe quel événement, mais bien des événements, bien des, par exemple, on en parlait juste en arrivant, une blessure psycho-émotionnelle. Lorsqu'on est blessé par quelqu'un, on croit vraiment qu'on est blessé par quelqu'un. On croit vraiment que c'est grave. On croit vraiment qu'il n'aurait pas dû faire ça, qu'il est méchant, que je ne sais pas quoi. En réalité, c'est juste une croyance, c'est-à-dire une pensée crue du verbe croire. En réalité, si par exemple, là maintenant, vous pensez à l'une de vos blessures psycho-émotionnelles, passées, n'importe laquelle, la plus grosse que vous ayez jamais vécue, ou petite, qui vous passe par la tête là maintenant, regardez, souvenez-vous de l'événement. Et souvenez-vous de ce que ça fait dans le corps, très précisément dans le corps. Dans le corps, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression de souffrir beaucoup quand on est blessé. Et en réalité, il y a juste une petite pointe, souvent dans la poitrine. Mais pas de quoi fouetter un chat. Souvent, ça fait même moins mal qu'une piqûre de moustique. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de douleur. Et pourtant, on a l'impression de souffrir beaucoup. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'on se raconte au moment où on est blessé ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, mais enfin, comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Mais enfin, il m'en veut. Tout ce qu'on se raconte. Essayez de voir, de vous souvenir, qu'est-ce qui s'est pensé à ce moment-là ? Quelles ont été les pensées qui sont apparues à ce moment-là ? Au moment où vous avez été blessé une fois ou l'autre dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Et puis imaginez que ces pensées n'aient jamais pu apparaître. Imaginez que ces pensées, vous les ayez jamais eues. Le même événement, mais la tête vide, aucune pensée par rapport à cet événement. Est-ce que vous êtes toujours blessé ? Ben non. Maintenant, imaginez que les mêmes pensées apparaissent, mais qu'elles ne soient pas crues, qu'elles n'accrochent pas, qu'on n'y colle pas, qu'elles apparaissent et elles passent comme les nuages dans le ciel. Ben, ça choque un coup, puis ça passe, c'est fini. De nouveau, on n'est pas blessé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, si l'on est blessé, c'est parce qu'il y a des pensées, et qu'en plus, ces pensées sont crues. Vous devez me croire. Pas de pensée, pas de blessure. Pensée, pas crue, pas de blessure non plus. Pour être blessé psycho-émotionnellement, il faut des pensées crues. Et en fait, c'est pas seulement lorsqu'on est blessé psycho-émotionnellement, c'est dès qu'on ressent le plus petit mal-être psycho-émotionnel, je ne parlais pas de la douleur pour l'instant, dès qu'on ressent un mal-être psycho-émotionnel, c'est qu'il y a au moins une pensée crue. Et sans cette pensée crue, pas de mal-être. Par exemple, il fait mauvais, on se dit « Oh là là, il pleut encore, il y en a 7 ans de... » C'est une pensée. Il y a une sorte de refus du mauvais temps. Il y a l'idée que ce serait mieux s'il faisait beau, etc. Ce sont des pensées. Imaginez à nouveau que ces pensées n'apparaissent pas, ou qu'elles apparaissent mais qu'elles ne soient pas crues. Ben, le mauvais temps, on appelle ça mauvais, c'est une étiquette, mais en fait, il ne fait pas mauvais. Il pleut. Vous voyez ce que je veux dire ? Et regardez pour d'autres choses. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un souci avec un patron, avec une employée, un employé, tout ce que vous vous dites à ce moment-là, Oui, t'as vu comment il est, comment elle est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. S'il n'y a pas tout ce discours mental, un souci avec votre chérie, là c'est plus chaud. Mais regardez à nouveau. Vous estimez qu'il n'aurait pas dû faire ci, ou qu'il aurait dû se comporter comme ça, ou pas comme ci, enfin, etc. Quoi. Tout ça, ce sont toujours des pensées. Si toutes ces pensées ne pouvaient pas apparaître, pas de blessure. Si ces pensées apparaissent et ne sont pas crues, pas de blessure, pas de conflit, pas de soucis. Alors bien sûr, il y a quand même des limites. Si on marche sur les pieds, le réflexe naturel du corps est de dire « Wow, stop !» Mais il n'y a pas de pensée à ce moment-là. Il y a une réaction de l'organisme face à un événement précis. Ça ne passe pas par la pensée. Et ça n'a pas besoin de passer par la pensée. C'est-à-dire que ça continue à fonctionner. Tout continue à fonctionner comme avant. Mais avec beaucoup moins de souffrance psycho-émotionnelle. Voire plus du tout. Autrement dit, d'une façon générale, on a tendance à croire les pensées qui apparaissent dans notre esprit, en faire une histoire, et à vivre en fonction de ces histoires. Alors souvent, c'est des choses embêtantes, douloureuses, souffrantes, et c'est aussi, parfois, plus ou moins souvent, des choses agréables. L'enthousiasme est lui aussi souvent dû à une pensée crue. « Ouais, ça y est, j'y suis arrivé !» Et c'est une pensée. Et qu'est-ce qui se passe, d'une façon générale, lorsqu'on est collé à nos pensées, lorsqu'on est collé aux événements comme ça, enfin, aux pensées en fait, eh ben, c'est comme si notre champ, notre regard se refermait, comme si on avait des œillères. Et on ne voit plus que ça, que mon histoire, mon opinion, ma façon de vivre, etc. etc. On connaît bien ça. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les pensées sont vues pour ce qu'elles sont, de simples pensées, alors, enfin, je vais revenir longuement là-dessus, qui n'ont pas besoin d'être crus, qui ne demandent pas à être crus, eh bien, c'est simplement plus tranquille, ça se décolle, la perspective s'élargit, c'est pour ça qu'on parle de perspective. Et tout à coup, tout nous apparaît comme une unité vivante, en mouvement, naturellement, spontanément. Je disais que j'allais beaucoup parler des pensées crues, et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Mais voilà un excellent exemple. Il n'est pas fait exprès, je vous promets. Mais on pourrait se dire, mais vous rendez compte, ah, ça y est, je suis là en face de vous, je ne sais plus ce que je dois dire et comment je vais le dire. On pourrait en faire une catastrophe. On pourrait se dire, ah tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de pensée. Ah tiens, c'est bizarre, ça a oublié. Ah tiens. Et puis juste être amusé. En fait, c'est ça qui change. C'est que les événements qui avant pouvaient être vécus comme dramatiques, en fait, ils ne sont pas dramatiques. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un blanc? Qu'est-ce que ça veut faire que les pensées soient parties? Qu'est-ce que ça veut faire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça n'a aucune espèce d'importance en soi. Il y a un étonnement. Ah tiens, c'est bizarre. Et ça ne peut pas ne pas sourire, ne pas rire. Alors le plus drôle, c'est que pendant que je vous disais tout ça, ah oui, c'était ça que je voulais dire. Ils ont reparti. La vie a un certain comique. Oui, ça y est. Regardez les pensées. Elles vont, elles viennent. Mais regardez pour vous-même, depuis que vous êtes assis là, depuis que j'ai commencé, il y a déjà eu des pensées qui sont apparues. Est-ce que ces pensées, vous les avez pensées vous-même, ou est-ce qu'elles sont apparues d'elles-mêmes? Et là, j'attends une réponse. Elles sont apparues. Et voilà. Et là, maintenant, vous, ceux qui ont parlé, vous venez de parler, il y en a qui tournent la tête, qui bougent la main, qui se gratte dans le dos, qui, etc., qui rigole quand je vous admire, qui se frotte, vous comprenez, qui s'assourit. Est-ce que vous choisissez de le faire ou est-ce que ça se fait tout seul, tout ça? Ça se fait tout seul. Et regardez votre corps, il y a plein de sensations dedans. Est-ce que vous pensez tout le temps à toutes ces sensations? Si j'attire votre attention dessus, vous commencez à sentir le pied des pieds au sol. Mais sinon, vous avez oublié que les pieds, ils sentaient le sol. Ça veut dire que sans cesse, il y a des tonnes de sensations auxquelles on ne fait pas attention. Sans cesse, il y a plein de choses qui se passent d'elles-mêmes toutes seules, sans personne pour les affaires. Et les pensées apparaissent toutes seules, sans personne pour les penser. Les actes se font tout seuls, sans personne pour les faire. Et si on se met à regarder, et c'est ça le vrai sens de... Bon, moi j'appelle ça regarder, d'autres appellent ça écouter, on peut appeler ça être avec, on peut appeler ça rencontrer directement, on peut appeler ça présence, conscience, peu importe le mot. Le mot qui vient ici le plus souvent, c'est regarder. Mais oubliez-le, s'il vous dérange, prenez-en un autre, si le regard ne parle pas. Mais c'est ça qui est vraiment regarder. Simplement être là et puis, ah tiens, mais la main elle bouge toute seule. Ah tiens, mais le ton de voix, c'est pas moi qui le choisis. Ah tiens, mais les mots qui sortent là de ma bouche, je les ai jamais choisis. Ils apparaissent tout seuls. Tout arrive de soi-même, sans personne pour le faire. Et en fait, c'est ça que la perspective non-duelle permet de toucher, puis de réaliser. Tout arrive de soi-même. Il n'y a jamais personne qui n'a jamais rien fait. Il n'y a pas de pilote aux commandes de l'organisme, contrairement à ce que l'on croit. Autrement dit, on croit qu'il y a un moi, un individu ici, à l'intérieur de cet organisme, qui fait des choix, qui pense par lui-même et qui pose des actes. C'est faux. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Et en fait, toute la perspective non-duelle s'appuie là-dessus. Alors, entre autres. Alors bien sûr, c'est un petit peu, ça fait un coup parce qu'on a quand même tendance à penser, non mais attends là, c'est quand même moi qui l'ai fait ça, c'est quand même moi qui ai fait ça. Mais si on en regarde de près, on verra que non. En vérité, non. Vous avez déjà vu, en fait, vous ne pensez pas vos pensées. Elles apparaissent. Or, il y en a un qui a écrit « Je pense donc je suis ». Et on nous l'a enseigné, celui-là. On nous a appris ça. On nous a inculqué ça. On nous a dit « C'est toi qui penses, c'est toi qui penses comme ça. Et c'est pas bien de penser comme ça, ou bien tu as raison de penser comme ça. Et c'est toi qui le penses. Et tu es responsable de ce que tu penses. Tu peux même pécher par pensée, par parole ou par action. » Mais on ne pense pas. Ça pense. Les pensées apparaissent. Donc, c'est juste pas possible. On a oublié de nous dire à l'école que le même qui a écrit « Je pense donc je suis » a écrit plus tard dans la méditation métaphysique « Je suis, j'existe ». Il avait un petit peu plus vu clair plus tard. Mais toujours est-il que si vous regardez de près, essayez de trouver un acte, un choix, une pensée que vous avez eue par vous-même, que vous avez choisi d'avoir, que vous avez pensé par vous-même. Quand on était petit, on croyait au Père Noël. Il n'y a pas d'enfant dans la salle. Et un jour, on nous a dit, il n'y a pas de Père Noël. Moi, il a fallu que je voie mes parents mettre les cadeaux sous le sapin pour croire qu'il n'y a pas de Père Noël, parce que je voulais croire au Père Noël. Le moi, c'est pareil. On nous a inculqué la croyance en un moi. Mais sauf qu'il n'y a jamais eu personne pour nous dire « c'est pas vrai, il n'y en a pas ». Autrefois, on croyait que la Terre était ronde. Était plate, pardon. On avait brûlé des gens parce qu'ils disaient qu'elle était ronde. Et cependant, elle tournait quand même. Et les saisons alternaient. Et puis un jour, on a dit « ah ben si, en fait, elle est ronde ». Et la Terre a continué de tourner. Et les saisons continuent à alterner. En réalité, il n'y a pas de changement réel. La seule chose qui a changé, c'est que les êtres humains n'ont plus peur de tomber dans le trou d'aller en mer. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se passe. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose de fondamentalement radical. Ça y est, on peut faire le tour du monde. C'est radical quand même comme changement. On peut explorer les océans jusqu'au bout. Et à la fois, rien ne change, la Terre tourne toujours, les saisons alternent toujours. Et c'est pareil pour ce qui concerne, entre guillemets, ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation. En réalité, c'est pareil, c'est-à-dire que la Terre tourne toujours, les saisons alternent toujours, les pensées apparaissent, les actes se produisent, les choix sont effectués. Sauf qu'il est réalisé, il est su, il est vu, il est connu, avec une évidence qui ne se discute pas, sans aucun doute, que il n'y a pas de moi, qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura jamais. Et donc aucun moine n'a jamais rien fait. Puis donc, en réalité, personne ne peut être responsable de quoi que ce soit. Et ça, c'est pourtant ce que je dis là. Non pas en ce sens qu'on n'est plus responsable que nous, on peut tout se permettre, mais en ce sens que tout arrive de soi-même, sans moi pour le faire. Et à ce stade-là, je suis un petit peu obligé de raconter une histoire qui, je crois, est soufie à l'origine. C'est un voleur qui a venu dans son juge et puis qui dit « Mais monsieur le juge, vous ne pouvez pas me condamner. D'accord, j'ai volé, ça fait 20 ans que je vole, mais vous ne pouvez pas me condamner. C'est pas moi qui ai choisi de voler. Si Dieu m'a fait voleur, qu'est-ce que je peux ?» Et le juge répond « Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu n'as pas choisi d'être voleur. C'est Dieu qui t'a fait voleur. Tu as parfaitement raison. Et Dieu m'a fait juge. » Et en tant que juge, tu vas te condamner, tu auras 50 coups de fouet. Et autrement dit, réaliser qu'il n'y a pas de responsabilité. Il y a pas, c'est pas une pas qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est qu'il n'y a pas un moi qui puisse être responsable ou pas responsable. Pour qu'il y ait une idée de responsabilité, il faut qu'il y ait l'idée d'un moi. S'il n'y a pas de moi, s'il n'y a pas de pilote aux commandes, personne ne peut être responsable ou pas responsable. La question de la responsabilité tombe, s'effondre, avec l'absence d'un quelqu'un qui pourrait être responsable ou qui pourrait ne pas être responsable. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un blanc-seing. Parce qu'en réalité, la responsabilité, comme tout le reste, arrive. La responsabilité, elle se produit, et en plus, elle est naturelle. Imaginez un instant qu'il y a à côté de vous un gamin qui arrive en courant et qui traverse la rue quand une voiture qui arrive. C'est pas le vôtre, hein. Trop facile si c'est le nôtre. Est-ce qu'il faut longtemps de réflexion pour le bloquer ? Est-ce qu'on va se dire, oh ben c'est pour le mieux, je le laisse traverser, qu'il va se faire écraser ? Ça n'a juste pas de sens. Automatiquement, on va bloquer le gamin. Automatiquement, on est capable de mettre sa vie en danger pour protéger un enfant ou quelqu'un d'autre. On voit ça tous les jours. Et ça ne passe pas par la case cervelle, où on se dit, comment je vais faire ? Ce serait trop tard. C'est automatique, c'est immédiat. La responsabilité, elle est prise. De fait, immédiatement, dès que là-haut, c'est sain. Dès qu'on arrête de croire les pensées, naturellement, je ne sais pas comment le dire autrement, le mettre en mots, on va se sentir responsable, non pas de tout et de rien et de personne, mais les responsabilités vont être prises, de fait. Et quelqu'un qui dit, de toute façon, il n'y a personne qui vous commande, il n'y a pas de moi, donc de toute façon, je suis responsable de rien, c'est une pensée qui est crue et qui est entre guillemets perverse, en ce sens, c'est une récupération d'un concept pour se dédouaner de trucs qu'on devrait faire, qui se ferait naturellement s'il n'y avait pas cette pensée. Autrement dit, c'est pas un blanc-seing, c'est l'inverse. Parce qu'à partir du moment où on arrête de croire à nos histoires, à partir du moment où exactement, les histoires qui se racontent en nous ne sont plus crues, à partir du moment où elles s'effondrent, il y a une vraie liberté qui s'installe à l'intérieur. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à acquérir. Il n'y a plus rien à vouloir. Il n'y a plus rien à ne pas vouloir. Il n'y a plus rien réellement à désirer. Tout ça est libre. Et ce qui vient à la place, c'est ce qu'on est au fond. Ce qui vient se manifester à la place, c'est ce qu'on est au fond. Et qu'est-ce que c'est qu'on est en fond ? Ben vous le savez très bien. Déposez un instant toutes vos pensées, toutes les histoires, tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, hier, depuis que vous êtes né. Posez tout ça un instant. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Oubliez tout. Qu'est-ce qui reste ? Rien ? Et pourtant, ce rien, il est constaté. Il n'y a rien à l'intérieur, apparemment. Mais le rien, il est constaté. Qu'est-ce qui le constate ? L'être, on peut appeler ça l'être. Mais restez avec ça qui reste. Restez avec cela qui constate tout ce qui arrive. Restez avec cette absence de pensée, d'histoire personnelle. Et immédiatement, au moins il y a le calme plat. Au moins il y a le calme plat. Et quand on reste avec ça encore et encore, le fond, ce que nous sommes en fond, que nous avons toujours été, se manifeste, comme un moteur qui se met en route, vous savez, ça pue, ça y va, et ça y va, et ça y va de plus en plus fort. Et qu'est-ce que c'est en fond ? Qu'est-ce qu'on est en fond ? Ben, vous savez bien, on est joie, amour, sérénité, accueil, etc., etc., etc. Toutes ces choses qu'on a toujours désirées, en réalité, on n'a pas besoin de les acquérir. Nous sommes cela. Nous sommes très exactement ce qu'on a toujours désiré. Avoir ou être. Et la seule chose qui nous empêche de vivre que nous sommes cette paix, que nous sommes cette joie, cet amour, cette sérénité, ce bonheur tranquille que nous avons toujours été, ce sont les pensées crues. C'est pas ce qui nous arrive dans le monde, c'est pas ce qui nous arrive à nous personnellement, c'est pas l'état de santé de notre corps, c'est rien de tout ça. C'est uniquement les pensées crues, à commencer par la pensée « moi », la croyance en l'idée d'un « moi ». Et pourquoi cette pensée plus qu'une autre? Parce qu'en réalité, dès qu'on raconte une histoire de « moi », je mets « histoire » entre guillemets, on va dire « je ». Et on va dire « je suis triste »,« je suis en colère », »,« je suis blessé », »,« je suis enthousiaste », »,« je ». En réalité, il y a toujours au moins deux pensées juxtaposées. La pensée « moi » et la pensée « tristesse »,« colère »,« enthousiasme »,« blessure », etc. Et l'une vient tenir la main à l'autre et elles viennent se renforcer l'une l'autre. Lorsque la croyance en la pensée « moi » s'effondre, lorsqu'il est vu, réalisé qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en a jamais eu, un pan de nos souffrances s'effondre d'un coup. Il peut encore y avoir colère, il peut encore y avoir tristesse, il peut encore y avoir blessure, il peut encore y avoir enthousiasme. Mais c'est plus tenu par l'idée d'un moi. C'est-à-dire que ce n'est plus à moi que ça arrive, il n'y a pas de moi. C'est en moi, c'est en ce qui est, en ce que je suis, qu'apparaît une colère, qu'apparaît une tristesse, n'importe quoi d'autre. Alors c'est plus une histoire personnelle. C'est beaucoup moins chaud, c'est plus collé. Ça apparaît en moi, sans en être séparé. C'est bien en moi que ça apparaît, pas ailleurs. Et c'est libre. Ça veut dire aussi que ça peut être rencontré beaucoup plus facilement. Ça peut être épousé plus facilement. Ça peut se déployer plus facilement au sein de cet organisme. Et comme ça n'est plus bloqué, ça n'est plus réflané, ça n'est plus refusé, il n'y en a pas peur, et bien ça nous habite un temps, quelques secondes généralement, et ça passe. Regardez les enfants, ils tombent, ils sont mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils vont se mettre dans les bras de papa, maman, et puis allez, une minute après, ils retournent jouer. Nous, on a encore envie de les serrer dans les bras, mais eux, non, c'est fini, ils vont jouer. C'est fini. Ils s'engueulent avec leur copain, t'es plus mon copain! Et une minute après, ils rejouent ensemble, parfois un peu plus, mais enfin, ça dure jamais longtemps, parce qu'ils le vivent pleinement, qu'ils ne s'y accrochent pas à ça. Oui, tu te rends compte ce qu'il m'a fait? Tu comprends ce que je veux dire? Ça passe, parce que c'est vécu, et ça ne s'accroche pas. Et c'est ça, quelque part, le sens de redevenir un petit enfant. C'est-à-dire, laisser les choses apparaître, enfin, les laisser être, c'est même trop, parce qu'il n'y a personne pour les laisser être. Les choses apparaissent, il n'y a rien qui vient les bloquer, il n'y a rien qui vient les repousser, il n'y a rien qui en a peur, c'est vécu, ça traverse, et c'est fini, circuler, ça passe, et ça laisse le champ libre à autre chose. Les exemples que j'aime bien prendre par rapport à cette rencontre avec ce qui nous arrive, c'est par exemple lorsqu'on a un bébé dans les bras. Nos pensées crues, nos blessures, nos colères, nos tristesses, toutes nos choses agréables, et même les agréables très émotionnelles, on peut juste les prendre dans les bras, comme un bébé, c'est un nouveau-né, et on est là. Voilà. C'est tellement bon. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça sourit, ça ne peut pas sourire. C'est touché, complètement touché. Amoureux, presque. Zéro distance. Complète implication. On est complètement là avec ce bébé. Et aucune identification. On sait bien qu'on n'est pas le bébé. Il n'y a pas d'identification. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, cette rencontre directe. C'est ça que j'appelle regarder ce qui est. C'est être avec ce qui arrive comme ça, dans ses épousailles. Cette tendresse, cette délicatesse, cet amour, cette douceur, avec nos problèmes, avec ce qui est difficile à vivre en nous. Un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est, vous savez, comme les enfants, quand ils se promènent, les jeunes, parce qu'après, on leur apprend à faire autrement. Vous ne faites pas trois pas, ils s'arrêtent tout le temps. Ils regardent les fourmis, la fleur, n'importe quoi. Tout est bon à regarder, ils explorent. Alors ça, c'est une autre solution, par exemple. C'est juste être avec ce qui apparaît, comme un explorateur, comme un enfant. Ah, regarde, t'as vu? Avec cet émerveillement, cet étonnement, ce vrai regard, cette vraie observation. peut juste rester là un quart d'heure à regarder des fourmis, une demi-heure. Et bien faire pareil si vous arrivez avec nos pensées crues. À commencer par, enfin à commencer ou pour finir, peu importe, mais en tout cas, un jour, on va s'intéresser là à la pensée de moi, à l'idée d'un moi. Parce que les autres gravitent autour. Dès que la pensée moi s'effondre, n'est plus crue, les autres ne tiennent plus aussi solidement. Et donc il est beaucoup plus facile de les voir pour ce qu'elles sont, de simples pensées, et donc de les voir s'effondrer naturellement, spontanément. Simplement parce qu'il est vu, puis ça n'a pas de sens de les croire, ça n'a aucun sens. C'est juste faire souffrir pour rien. Et pour ce faire, on peut s'appuyer sur différentes petites choses qui vont aider justement à retrouver ce regard que nous sommes en réalité. Regardez les enfants, ils sont ce regard. Naturellement, ils regardent les choses. Nous, c'est pareil. Simplement, on nous a appris à arrêter de regarder, à écouter nos pensées, à croire nos pensées, à écouter ce qu'on nous disait, à écouter quand on nous disait « t'es responsable, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça ». Nous accusant de faire ce qu'on avait fait. Les enfants savent bien qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Ils n'arrêtent pas de le dire, je ne l'ai pas fait exprès. Et c'est vrai. Et nous, on a oublié qu'on ne le fait pas exprès. On a toujours fait du mieux qu'on a pu. Si vous regardez bien, pour vous-même, même toutes les fois ou les rares fois où vous avez fait quelque chose de pas très droit, de pas très propre, de pas très gentil, vous ne pouviez pas faire mieux. Vous ne pouviez pas faire mieux. Regardez. Et s'il y en a un seul à ça qui pense que si, on peut faire mieux, il me dit, on a toujours fait du mieux qu'on a pu. Tout le monde, tout le monde. Compte tenu de qui on était à ce moment-là, compte tenu de nos souffrances, de nos blessures intérieures, etc., etc., on a toujours fait du mieux qu'on a pu. On ne pouvait pas faire mieux. C'est pas un signe, ça. Comment est-ce qu'on peut aller se culpabiliser alors qu'on ne pouvait pas faire mieux? Ça n'a pas de sens. Comment on peut se sentir responsable alors qu'on ne pouvait pas faire mieux? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, on nous apprend, t'es responsable, t'es coupable, t'aurais pas dû. Et à nouveau, c'est pas un blanc-seing. Parce qu'à nouveau, si vous regardez toutes les fois où vous avez quelque chose de pas très propre, si vous étiez blessé, c'est qu'il s'était passé quelque chose qui vous avait fait souffrir. C'est que... Je ne sais pas, moi, il s'était passé quelque chose dans votre enfance que vous avez répété, que vous ne pouvez pas ne pas répéter parce que ça me métisse. C'est parce que... Et tout ça, c'est lié... Et pourquoi ça s'est passé comme ça dans votre enfance? Parce que vos parents avaient des pensées crues. Ou parce que leurs parents... Enfin, etc. Maintenant, enlevez toutes ces histoires de moi. Enlevez toutes ces blessures. Imaginez que vous n'ayez jamais été blessé dans votre vie. Mais vous ne pourriez pas agir mal. Ce ne serait pas possible. Il y a une droiture naturelle, nous sommes la droiture même, qui n'a pas besoin d'être écrite, qui n'a pas besoin de se tenir droite. C'est naturel. C'est ce que nous sommes. Et en réalité, qu'est-ce qui fait que cette droiture ne s'exprime pas? Des pensées crues, des blessures, des colères, des tristesses, tout ça lié à des pensées crues. Auxquelles on croit. Auquel on croit. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce qu'elle mérite d'être crue, ces pensées? Ben, à nouveau, pensez peut-être à la blessure dont on parlait tout à l'heure. Retrouvez les pensées qui ont fait que vous avez été blessé. Et puis, dites-moi, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose de positif, ces pensées? Qu'est-ce que ça crée dans votre vie, cette blessure et ces pensées? Qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça crée du bon ou rien de bon? Rien de bon? Peut-être même des choses négatives? Alors si jamais ça apporte rien de bon et plutôt même des choses négatives, à quoi ça sert de croire ces pensées que vous n'avez pas eues, enfin, qui sont apparues en vous sans que vous les ayez pensées? Et qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraies? Comme on disait tout à l'heure, on est blessé, ok, parce que l'autre, il n'aurait pas dû faire ci ou ça. Mais il a fait de son mieux comme nous. On fait toujours de notre mieux, lui aussi. Et ça, on l'oublie. L'autre ne vous a pas blessé. Personne ne vous a jamais blessé. Ce sont les pensées crues qui sont apparues spontanément en vous qui ont fait que vous avez été blessé. Parce que vous avez oublié une chose, tout le monde fait toujours de son mieux. Qui n'est pas une pensée crue, c'est une constatation quand on regarde. Ça, c'est aussi un point important. Ne croyez pas ce que je dis sur parole. Ne croyez rien sur parole. Regardez. Regardez. Écoutez. Soyez avec ce qui apparaît. Regardez. Remettez en question et en doute tout ce qu'on vous a pu apprendre à propos de comment ça fonctionne. Cet organisme. Il y a beaucoup de choses fausses. Et je disais tout à l'heure, s'appuyer sur des choses, sur l'être T, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'être, justement pour accéder, enfin pour que ce regard se porte plus facilement, pour que les yeux s'ouvrent à nouveau. C'est comme si lorsqu'on était petit, on avait dit ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Forcément, à la fin, on a les yeux fermés, on voit plus clair. Et forcément, il se passe des choses pas agréables, on rentre dans les murs, etc. Quoi. Les murs, c'est les pensées crues. On va se mettre à croire des choses fausses parce qu'on n'a pas les yeux ouverts. Et quel effort faut-il faire pour voir ? Aucun. En réalité, il n'y a aucun effort à fournir. Dès que les yeux sont ouverts, ils perçoivent de fait. Il n'y a pas d'effort à fournir. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que comme on nous a dit tout le temps depuis qu'on est petit, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, eh bien, il y a des gens comme moi qui vont dire ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et alors, ça ouvre les yeux, oh, je suis ébloui. Pas grave, ouvre les yeux. Ouh. Et petit à petit, ça s'habitue, à la fin, ça ouvre les yeux. Waouh. Mais il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu. Waouh. Mais les pensées, elles sont que waouh. Mais j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Mais j'ai jamais posé un acte. Il n'y a pas un moi qui pourrait faire ça. Et là, tout à coup, il y a une libération qui se produit. Et c'est ce qu'on appelle communément l'éveil de réalisation. Et on va regarder dans un autre sens. Vous allez s'appuyer sur quelque chose, c'est la troisième fois que je le dis. Essayez d'arrêter d'être là maintenant. Essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous pouvez ? Non. Tout le monde est d'accord ? Faut bien hein, si vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez pas ne pas être. Vous ne pouvez pas ne pas être. C'est une constatation immédiate. Essayez d'arrêter d'être. Ah non, je ne peux pas arrêter d'être. C'est su. C'est vu immédiatement. C'est connu. C'est immédiat. Restez avec cela qui ne peut pas ne pas être. Essayez d'arrêter d'être. Ça constate immédiatement. Ah, mais je ne peux pas arrêter d'être. Regardez cela qui ne peut pas ne pas être. Tournez le regard vers là. Comment c'est ? Est-ce que ça change avec le temps? Est-ce que c'est différent aujourd'hui d'hier ou d'il y a 10 ans? Est-ce que c'est dépendant de vos états psycho-émotionnels? Quand vous allez bien, quand vous allez mal, quand c'est neutre, est-ce que c'est différent? Est-ce que ça dépend de votre état de santé physique? Quand vous êtes malade ou en bonne santé, est-ce que vous arrêtez d'être ou moins, ou est-ce que vous l'êtes moins, ou est-ce que vous... l'être-té est toujours la même? Est-ce que ça dépend de votre âge, de votre sexe, de vos situations professionnelles, familiales? Chez moi, en tout cas, non. Cette étreté, elle est tout le temps là. Est-ce que parfois elle n'est pas là? Ou est-ce que simplement parfois j'en ai pas conscience, comme les pieds par terre qui touchent le sol, ou les fesses sur la chaise? Est-ce qu'elle est tout le temps là ou est-ce qu'elle va et vient? Elle est tout le temps là, c'est toujours la même, quel que soit notre âge, notre état de santé physique, psychologique, ce qu'on vit dans le monde, etc. C'est toujours la même, elle ne change pas. Et on le sait, dès qu'on regarde de ce côté-là, c'est su. C'est su, on sait. Ah ouais, c'est vrai, je suis. Et je ne peux pas ne pas être. Ah, et c'est toujours la même chose. Alors, puisque les états psycho-émotionnels changent, puisque le corps change, puisque tout change, sauf cet être-té que nous sommes, d'une certaine manière, qu'est-ce qui est le plus vrai ? L'être-té ? Ou ce qu'on croit être habituellement, cet organisme avec tout ce qu'il peut traverser ? Sur quoi peut-on s'appuyer le plus ? Sur les aléas de l'existence et tout ce qu'on croit qu'on vit, ou sur cet être-té que l'on est tout le temps ? Et depuis cet être-té, essayer d'arrêter d'être, rester avec cela qui ne peut pas ne pas être, et regarder l'événement qui vous a blessé, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il a la même force ? Ou est-ce que, finalement, après tout, c'est pas si grave ? Est-ce que je rentre dans l'histoire, oui, tu te rends compte, et que ça remonte comme avant ? Ou est-ce que on peut regarder ce qui s'est passé avec plus de tranquillité intérieure ? Est-ce que c'est plus apaisé ou plus agité ? On pourrait dire aussi. Maintenant, imaginez que ce calme, cette tranquillité soit tout le temps là, consciemment présente en vous, enfin en vous, que vous soyez ce calme, cette tranquillité, cela que vous ne pouvez pas ne pas être, cela que vous ne pouvez pas ne pas être, c'est bien ça. Imaginez que, au lieu de croire que vous êtes cet organisme, au lieu de croire que vous êtes ce que vous vivez dans le monde, vous réalisiez que vous êtes cet être-té, que vous êtes cela qui ne peut pas ne pas être, et que ce soit là, mais une évidence constante. La vie ne serait pas plus cool ? Elle ne serait pas plus tranquille, avec beaucoup moins de conflits, avec plus de rire ? Plus de naturel, de liberté, de, vous voyez ce que je veux dire, de ce mouvement naturel qui pourrait s'exprimer, ce qui n'empêche pas des fois de se mettre en colère s'il y a besoin. Hein. Mais sans quoi, oui, t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu, sans en construire une histoire. C'est waouh ! Ça y est, c'est fini. Ça a dit ce que ça avait à dire. Parce que parfois, bah, y a besoin de cadrer les choses. La nature, la vie s'exprime comme ça. Bon, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai déjà beaucoup parlé.
Moi, je voudrais savoir, comment fonctionne ça, qui voit ?
Mais faut-il quelqu'un qui voit ? Faudrait-il qu'il y ait un quelqu'un qui voit ? Tu pars du principe qu'il doit y avoir quelqu'un. C'est une pensée.
Si j'observe ça, quelle est la part de moi qui voit ça ?
Si j'observe ça, quelle est la part de moi qui voit ça ? Ça se forme dans la tête. Oui. Ça voit. Le regard perçoit. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un pilote aux commandes de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un au centre de la Terre pour la faire tourner rond ? Ça se fait tout seul, sans personne.
C'est l'attirance, c'est le champ magnétique.
Oui, après on peut trouver des explications.
C'est physique.
Ok.
En fait, les pensées, elles viennent de nous, elles viennent pas de
nous. Elles viennent pas de nous, elles apparaissent. Il n'y a pas un moi qui pense les pensées. Ou alors elles viennent toutes de ce que je suis en tant que ce qui est, en tant que l'être théique, en tant que ce qui est, qui contient absolument tout. Mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour que ça tourne rond. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour que lorsqu'on a soif, on boive, pour que lorsqu'on a faim, on mange, pour qu'on se lève le matin, pour que, etc., etc. Il n'y a pas besoin de quelqu'un, ça se fait de soi-même. Mais on a l'idée, et c'est une pensée, c'est une idée, qu'il faut absolument qu'il y ait un qui. Eh bien non, il n'y en a pas. Quand moi je regarde, j'en vois pas. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'espace, on pourrait dire l'espace de la conscience, l'espace de l'être-té, l'espace de tout ce qui peut être vu est vu vide d'un acteur.
Mais on a quand même chacun une âme qui nous est propre.
C'est quoi l'âme ?
C'est, par exemple, on peut penser que si on meurt, cette âme va ailleurs, c'est le nous, c'est notre âme.
On peut penser ça. On peut penser plein de choses. Qu'est-ce qui est vrai ? Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'âme ou qu'il y en a une. pour moi, ce qu'on appelle soit l'être T, le je suis, ressemble de très près à cette âme.
Mais ça, c'est notre côté émotionnel.
Ça dépend comment on le définit. C'est pour ça que je demande qu'est-ce que vous appelez l'âme. Tout dépend comment on appelle ça. Bah, nous sommes différents.
On pleure, c'est pour ça. On crie, on a la joie. Ça, ce sont des mémoires qu'on vécu avec notre âme.
Il n'y a pas que des mémoires. Il y a une partie qui est mémoire, qui est conditionnement, et mais qui est duel aussi. C'est-à-dire, c'est amour ou haine, jour et nuit, colère ou paix, enfin, etc., etc. Il y a toujours une dualité, une bipolarité comme ça. Et en réalité, en amont de ça, c'est être T. Essayez d'arrêter de ne pas être. Essayez d'arrêter d'être. Restez avec cela qui ne peut pas ne pas être. Si vous restez avec, vous voyez qu'une tranquillité de fond, qu'elle n'a pas de contraire. Elle est tout le temps là, cette tranquillité. Même si extérieurement, on est blessé, même si extérieurement on a mal, même si extérieurement on est enthousiaste, même si extérieurement il y a de la colère, etc., cette être-té, elle est toujours tranquille. Et sans ça, c'est en 3 minutes comme ça. Maintenant, si vous restez longtemps avec cette être-té, vous allez voir qu'il y a de la joie, que cette être-té est joie, sans contraire et sans objet. Elle est paix sans contraire et sans objet. Elle est amour sans contraire et sans objet, etc. C'est-à-dire, c'est que de l'amour. Même s'il n'y a rien à aimer. Et évidemment, dès qu'il y a quelque chose à aimer, dès qu'il y a un objet, entre guillemets, une pensée, une personne, un objet physique, automatiquement, ça ne peut pas ne pas l'aimer, c'est l'amour. Et ça, c'est sans contraire. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, je pourrais avoir un téléphone sur... Je demandais tout à l'heure qu'est-ce que tu appelles l'âme. Parce que si on appelle l'âme quelque chose de psycho-émotionnel... qui est conditionné par des expériences passées dans cette vie ou dans d'autres, alors on ne parle pas de l'être-té.
L'âme, c'est la source. La source, l'énergie.
Peu importe. Après, c'est simplement une question de vocabulaire. Simplement, ce soir, on va essayer de parler avec les mêmes mots, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et c'est pour ça que je préfère parler de qu'est-ce qui ne peut pas ne pas être. Cela, je le suis. Et je sais que je le suis. Et je sais que je ne peux pas ne pas l'être. Ce qu'on appelle l'être-té, l'étance, l'être, le je suis, peu importe le mot qu'on met dessus. Mais c'est plus direct comme ça. Après, le reste, je préfère pas rentrer dans les définitions de chacun à propos de l'âme, à propos de l'énergie, à propos de l'émotionnel, des mémoires et tout ça, parce que c'est une bouteille à encre, chacun aura sa définition. Oui ?
Par rapport aux notions de conscient et d'inconscient,
En termes psychanalytiques, en termes...
Oui, tout bêtement, en tant que quelqu'un normal, le conscient étant chaque fois qu'on est dans notre volonté pensante et agissante.
Mais y est-on dans une volonté pensante et agissante un jour? Ou est-ce que simplement il y a expression, un mouvement volontaire, un mouvement de conscience?
Et puis l'inconscient, toute cette partie de nous qui nous échappe et... Voilà.
Par rapport à l'inconscient, j'en distinguerai plusieurs parties. Il y en a une qui est profondément inconsciente parce qu'elle est refoulée, parce qu'on nous a conditionnés à ne pas avoir certaines pensées, à ne pas se souvenir certaines choses, etc. Et puis, il y en a une autre qui est inconsciente parce que le regard ne se tourne pas vers elle ou parce qu'on le restreint avec des pensées. Comme je disais tout à l'heure, on croit à nos pensées, on croit à notre histoire personnelle, on croit que c'est un moi que ça arrive, on croit en l'idée d'un moi. Et tout cela, ça restreint notre regard. On met des œillères. Donc forcément, tout ce qui est en dehors de ce regard, eh ben, on ne peut pas le voir. Mais lorsque les pensées s'effondrent, les œillères tombent, le regard s'élargit. Alors il y a beaucoup plus de choses qui sont perçues, même si elles ne sont pas là présentes physiquement. Donc il y a moins d'inconscient, on pourrait dire. En réalité, cet inconscient, il est construit de toutes pièces à base de pensées crues. Et pour le reste, l'inconscient collectif ou l'inconscient freudien, tel qu'il en parlait, je ne sais pas trop, je ne saurais pas répondre exactement, mais il y a de toute façon une part qui est liée à des pensées crues. Et puis il y a une part qui est simplement que bah, ça fait trop d'informations. On ne sent pas tout le temps les milliers de sensations qu'on a dans le corps. On ne peut pas dire qu'elles sont inconscientes, parce qu'en réalité... si on porte l'attention sur le corps, on va les sentir. elles sont pas conscientisées. Voilà. C'est comme lorsque vous êtes concentré sur une tâche, vous êtes accaparé par un truc, on vous parle, ça entend, ça enregistre même, mais ça répond pas. C'est comme si ça n'entendait pas. Puis on se dit, oh, je te parle. Ah oui, et puis ça répond. Ça avait bien entendu, ça avait bien capté ce qu'on demandait. Mais c'était pas conscientisé, alors c'était conscient. Donc il y a aussi là une nuance. Mais j'aime pas trop aller revisiter tout ce que d'autres ont pu dire ou écrire ailleurs, dans d'autres contextes et d'autres définitions, parce que souvent c'est fondé sur des pensées crues, ça aussi.
Ouais. Est-ce que le traité, il y a quelque chose à voir, j'essaie de trouver le mot, avec cette chose qu'on appelle le temps ?
Le temps ?
D'une manière linéaire ou d'une manière peut-être plus verticale ? Est-ce qu'il y a une être-té dans le temps, l'être-té du passé, du présent, du futur?
Est-ce que l'être-té se modifie avec le temps dans ton expérience directe? Donc elle n'est pas soumise au temps.
Elle n'est pas soumise au temps, donc le temps existe.
À voir. Mais déjà, l'être-té n'est pas soumise au temps. Elle ne dépend pas du temps. Ni du temps qu'il fait, ni du temps passé, présent, futur. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le rapport effectivement entre l'être-té et le temps? Regarde. Et si le temps apparaissait au sein de l'être-té et non pas l'inverse? Et si l'espace apparaissait au sein de l'être-té et non pas l'inverse? Et si ce que je suis ne dépendait ni du temps, ni de l'espace, ni de cet organisme, ni de rien du tout? À regarder, à croire sur parole. Retenez ça, hein. Je ne suis pas en train de vous dire j'ai la bonne parole. Non, regardez. Il n'y a que comme ça. Parce que sinon, il y aura toujours un doute, il y aura toujours une histoire crue. Sinon, enfin, c'est pas. On retombe dans les mêmes pièges qu'avant. Il faut que ce soit direct. Parce que alors là, c'est définitif. Quand je vous demande d'essayer d'arrêter d'être, vous me dites ah ben non, je peux pas, c'est direct. Vous le savez une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin que. Après, si quelqu'un vous dit toi, tu n'es pas, ben, vous savez bien que c'est faux. Dès que vous regardez, vous savez bien que vous êtes. Il n'y a pas de preuve à apporter à ça, c'est direct. Et c'est direct, ce côté direct qui va faire que les choses vont changer et qu'elles vont être certaines, indubitables, sans aucun doute possible. C'est une évidence. Je ne suis pas en train de vous raconter ce que je pense, ce que je crois. Je suis en train de vous mettre en mots ce que je perçois en permanence. Ce n'est pas la même chose.
Oui. Des actes violents.
Oui.
Donc par rapport à ça, moi je l'ai entendu dire, elle a des entités qui c'est pas elle, c'est des entités ou des égrégores.
Ça c'est ce qu'on entend dire. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est que si cet être-té est vraiment actif ici, le mouvement de la vie va prendre le relais pour savoir quoi faire en face de ça, d'une façon générale. Et si ce n'est pas le mouvement de la vie, c'est qu'il y a encore des pensées crues. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se sentir indemne. Parce que ce qui arrive à ce corps est complètement secondaire. Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas cet organisme. Je suis cela qui ne peut pas ne pas être. Au sein duquel apparaît un organisme. Au sein duquel apparaissent des pensées, etc. etc. Et au sein duquel apparaît une expérience avec, par exemple, quelqu'un de violent. Et la réaction à cette violence en face... Tout peut apparaître. Ça peut être un éclat de rire, ça peut être l'agressivité, ça peut être tué, ça peut être soigné, ça peut être tout. J'en sais rien. Je ne sais jamais d'avance. Ce que je sais, c'est depuis que ça m'est arrivé, depuis qu'il est réalisé qu'il n'y a pas de moi, depuis qu'il est réalisé que je suis cet être, je me vois faire des choses que je n'avais jamais faites avant. Et qui ne viendrait jamais l'idée de faire. Simplement, ça sort. Ça fait... Je dis, okay. Wow. Et moi, je suis juste là qui le constate que ça passe. Waouh! Il y a une vraie liberté.
Vous avez encore compris la méthode de détachement?
Non.
Par rapport aux gens, par rapport à.
C'est l'inverse.
C'est l'aspect psychologique. On arrive à se détacher.
N'essayez surtout pas de vous détacher, vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous détacher. Il n'y a pas un moi qui puisse s'attacher ou ne pas s'attacher. Il n'y a pas un moi qui puisse se détacher. Il n'y a pas un moi aux commandes. Comme il n'y a pas de moi, il n'y a personne qui peut s'attacher ou se détacher. L'attachement se produit, l'attachement prend fin. En fonction de pensées crues. La seule chose que l'on peut faire, c'est ouvrir les yeux, orienter le regard dans la bonne direction, c'est-à-dire que la pensée crue va être vue. Le seul petit effort qu'il y aurait à faire, si on était capable de faire un effort, mais même ça, ça ne nous appartient pas, c'est ouvrir les yeux et porter le regard sur ce qui se passe. Et il se trouve que lorsque le regard se porte sur ce qu'il se passe, lorsque les choses sont vues pour ce qu'elles sont, lorsqu'il est vu qu'il y a une pensée crue qui tient un attachement, lorsqu'il est vu que cette pensée n'a pas besoin d'être crue, qu'elle apparaît toute seule, qu'elle n'a aucune valeur, qu'elle ne dit rien à propos de la vérité, à propos de la réalité, elle est vue comme fausse, elle s'effondre. Alors, la conséquence est qu'il y a un détachement. Mais jamais je ne me suis détaché. C'est important la différence. Sinon, on se met à créer une stratégie pour. Il faut que je me détache, sinon je n'atteindrai pas l'éveil. C'est la fin des haricots. Parce qu'il y a un attachement à ne pas être attaché. En plus. Donc on en rajoute une couche. C'est pas la peine. Il y en a déjà bien assez comme ça, des couches. Et au contraire, c'est « Ah, ça s'attache. Ah, ça voudrait atteindre quelque chose. Ah, ça veut créer une stratégie. Ah, ça récupère ce qui est dit pour aller quelque part, pour obtenir quelque chose. » Toute stratégie, tout mouvement fait pour acquérir quelque chose, pour obtenir quelque chose, à un moment donné, va échouer. Parce que ce n'est pas la vérité. Parce que c'est fondé sur l'idée qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Or, il n'y a personne. Ni qu'il puisse faire quelque chose, ni qu'il ne puisse pas faire quelque chose. Les choses arrivent. Il y en a qui disent, alors j'ai compris, j'ai rien à faire, je fais rien. Non, ça c'est encore faire quelque chose, c'est faire rien. C'est récupérer un concept et s'accrocher à l'idée, bon, ça ne sert à rien, donc je fais rien. C'est encore une pensée crue. Il y aura des conséquences. Donc, ni ne rien faire, ni faire quelque chose.
Je ne sais pas si c'est simple.
En fait, c'est hyper simple. C'est vrai que c'est... Mais dans cet étroité, je ne sais pas, au moment où tu dis c'est pas si simple, ça vient simplement. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin de réfléchir une heure, ni de dire comment je vais le dire et comment je vais y prendre. Ça sort, c'est pas si simple. C'est naturel, c'est spontané. Il n'y a rien à faire. En ce sens-là, il y a une affaire. Ça ne veut pas dire que rien ne va se faire. Ça veut dire que les choses vont se passer, vont arriver d'elles-mêmes. De Courtois et tous.
Est-ce qu'on peut dire ou affirmer que à une croyance, il y a forcément une pensée associée?
Une croyance est une pensée crue. C'est pour ça que j'aime bien l'expression pensée crue du verbe croire. Vous pouvez les faire cuire aussi, mais c'est une autre histoire. Une croyance, c'est ce qu'on appelle une pensée crue. Mais souvent, les gens, quand on dit croyance, ils n'entendent pas que c'est une pensée crue. C'est pour ça que j'aime bien l'expression pensée crue.
Ça veut dire que, par exemple, on vous exprimez avec toutes vos croyances, mais sans en avoir conscience.
Mais c'est le plus souvent, c'est ce qu'on fait.
Oui, mais est-ce que toutes nos croyances, je veux dire, et l'ensemble des croyances de la personne, elles sont toujours manifestes, mais avec plus ou moins de conscientisation
Chez toi, chez moi, d'une façon générale?
Chez moi.
Chez toi?
Non, d'une façon générale.
D'une façon générale, les croyances sont crues sans même un millimètre de regard, une microseconde de regard. Il y a une pensée qui apparaît le plus souvent, enfin... Il y en a plein qui passent, on ne les voit même pas comme des sensations. Hein? Mais il y en a, celles auxquelles on croit, elles sont crues automatiquement, par conditionnement, parce que ça arrive, par les gènes aussi, peut-être un peu, surtout par conditionnement. Elles arrivent, elles sont crues de fait.
D'accord.
Et à aucun moment, On dit, mais au fait, elle est vraie cette pensée ou pas? À aucun moment, le regard ne se porte dessus pour voir, mais est-ce qu'elle est vraie ou pas, cette croyance?
Si on ne la voit pas.
Mais même si on la voit,
oui, aussi.
T'as des opinions politiques. C'est que des croyances. Soyons clairs. Pardon?
La
religion, la plupart du temps, oui. La religion, oui.
Les
religions. Bien sûr. Mais pas seulement, dans plein d'autres domaines. Les relations amoureuses, les relations au travail, l'argent, comment gagner sa vie, et comment pas la gagner, ou je sais pas quoi. Tout ça est habité par des pensées crues dans tous les sens, auxquelles on se soumet. On est gouverné par des pensées crues.
Des croyances. C'est la nature humaine, comment on peut faire sans ça?
Je crois pas que ce soit la nature humaine.
Mais depuis des millénaires.
Ben oui, parce que depuis des millénaires, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Alors ils y croient, parce que c'est des enfants. Ils croient ce qu'on leur dit. Et puis ça tourne comme ça, c'est conditionné. Mais si depuis la plus tendre enfance, on dit aux enfants, tu sais, toutes tes pensées, c'est juste des pensées. T'as pas besoin de les croire. Et puis aide-moi donc à arrêter de croire aux miennes. Ça va changer la Terre, hein, la planète, la manière dont elle tourne. Enfin, elle tournera toujours pareil. Mais...
Est-ce que l'enfant peut se construire sans croyance? C'est difficile.
T'as un doute là-dessus? Pourquoi il ne pourrait pas se construire sans croyance? C'est sa nature, mais revenez à l'être-té à nouveau. Essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous croyez que les enfants n'ont pas aussi cet être-té en eux? Est-ce que vous croyez qu'elle a besoin de conditionnement pour être? Pour prendre soin de son petit frère ou de sa grande sœur s'il y a besoin ou de je sais pas quoi, ou pour manger quand il y a besoin de manger et, ça fonctionne tout seul. Il n'y a pas besoin de tout ça.
Ils ont besoin de repères quand même.
Mais les repères, ils sont de fait, ils sont donnés de fait. Mais leurs parents sont leurs parents, c'est un fait. Je ne suis pas en train de remettre en cause, en question les faits existentiels.
Oui, mais les pensées des enfants, ça va être mes parents sont protecteurs, mes parents sont présents.
C'est
parents...
pas une pensée, c'est une réalité. C'est une réalité quand même. Si les parents sont pas protecteurs, l'enfant il meurt avant d'attendre un mois.
Oui, mais les enfants qui se sentent en insécurité, ils vont bien penser. Et c'est des choses qui.
Plus ou moins, alors. Oui. Oui, c'est ça. S'il y a une partie qui est existentielle et qui va affecter l'enfant, il n'a pas forcément besoin de se raconter une histoire. C'est-à-dire que s'il se passe un événement qui effectivement est insécurisant, ou qui effectivement a toutes les raisons de faire peur, plus il y a un grand méchant avec un gros couteau qui attaque dans la forêt, il y a des chances pour que l'enfant soit traumatisé, enfin, sur le moment. Mais si on n'en fait pas une histoire, lui non plus n'en fera pas une histoire, et un quart d'heure après, il a envie. Il joue comme avant. De quel ordre?
Je sais pas, moi.
Physique?
Non, enfin, spécialement.
Existentiel, oui.
Du martèlement psychologique, je sais pas.
Oui, mais qu'est-ce qui fait que le martèlement psychologique a une infection sur...
Juste, quand on est jeune, personne nous dit, ça fait mal.
Je suis d'accord. Évidemment, je suis en train de nier une réalité existentielle. Hein. Évidemment que nous sommes tous blessés depuis la plus tendre enfance par des gens de gens. Évidemment. Aussi parce qu'on ne nous a jamais appris à voir ça autrement. Mais pense à ce matériel. Regarde ce martèlement psychologique. Imagine que les mêmes choses soient dites à la même personne, mais qu'elle n'en a rien à faire. Elle ne croit pas en vous.
Ça
glisse. Ça glisse. C'est-à-dire que ce qui fait que ça ne glisse pas, c'est qu'on y croit.
Des limitations.
D'accord. Mais c'est juste une croyance. Encore une fois, il y a souffrance parce qu'il y a pensée crue. Pas de pensée crue, pas de croyance. Je ne dis pas qu'il est possible de jamais croire aucune pensée. Je dis que... Ou une parole. Je dis que... Pas de pensée crue, pas de parole crue, pas de souffrance. Pas de mal-être psycho-émotionnel.
C'est un état d'esprit.
Non, c'est une vision directe. Après, à regarder, encore et encore. C'est-à-dire que lorsqu'on est blessé, excuse-moi, je finis, lorsqu'on est atteint par quelque chose, et on peut être blessé directement ou par personne interposée, on voit un gosse se faire taper dessus avec des mots, ça nous touche profondément. Évidemment que ça me touche. encore plus qu'avant. Je suis encore plus touché qu'avant, par tout ça. Pas moins, plus. Et il y a des chances pour que j'intervienne plus qu'avant. D'habitude, c'est rare que je le serre sans rien dire. Ou sans rien faire. Ne serait-ce que mettre au niveau de l'enfant et lui sourire. C'est presque le minimum, tu vois. Mais souvent, je reprends les parents gentiment. Je ne les reprends pas durement. Vous savez, c'est normal, c'est un enfant. Puis comme j'ai plus de 60 berges, une espèce de sagesse incarnée, là, on a obligé un peu de respect, comme je dis avec le sourire, ça passe. L'enfant, il entend aussi. Tu vois ce que je veux dire, c'est, ça ne peut pas ne pas réagir ici. Le mouvement de la vie, il est naturel, il va recentrer les choses du mieux qu'il peut, pour que ça se passe du mieux possible. Et ça va continuer, évidemment. Plus qu'avant, à mon avis. Tu vois. Et je sais pas pourquoi je disais ça. Ce que je veux dire, c'est que on a tous été blessés. On ne peut pas dire qu'on n'est pas blessé. On est blessé, c'est vrai. C'est comme ça. C'est une réalité. Mais parce que il n'y a jamais eu ce regard autre porté dessus. Parce que personne ne nous a jamais dit « Regarde autrement. » Enfin, regarde ce qu'il en est réellement. Tu vois. Tout à l'heure, il y a quelqu'un, elle vient de faire ça. Enfin, elle était enceinte de 15 jours et son bébé est parti. Ils sont tout coupables. Comment est-ce qu'on peut se sentir coupable? Ça n'a pas de sens pour moi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, comme pour moi, ça n'a pas de sens, lorsqu'on m'en parle, la réaction va être différente. Tu vois, si je crois qu'il est possible qu'il y ait une culpabilité parce que, tu vois, que peut-être elle est responsable à cause de ses pensées, que je ne sais pas quoi, forcément, ça va se sentir. Mais moi, c'est tellement évident qu'il n'y a pas de culpabilité. Que forcément, ça va traverser aussi, tu vois.
Quand même, quand on a une personne qui souffre et en face, on ne reconnaît pas cette souffrance, le mouvement de la personne souffrante, ça va être de prouver et de, quelque part, de cultiver ça et de s'enfoncer dans sa souffrance. La reconnaissance, mais la reconnaissance de la souffrance permet, à un moment donné, de la...
Oui.
L'accueillir,
en fait. Oui. Mais c'est pas l'autre qui doit accueillir ma souffrance.
Oui, mais si en face il n'y a aucune reconnaissance de ma souffrance,
aucune espèce d'importance.
Je vais m'échiner à montrer que je
ou suis... pas. Pourquoi est-ce que tu t'échines? Regarde. Pourquoi est-ce que tu veux tellement que l'autre entende?
Non, mais je le vois tous les jours, je suis psychologue.
Non, mais ok, mais.
Les gens, tant que j'ai entendu la souffrance, les gens. Prouver à quel point ils souffrent, et à partir du moment où je leur dis oh là là, mais j'entends, je vois, la personne elle redescend, puis elle me dit c'est pas si grave que ça, enfin, elle peut relâcher.
En plus, si t'es psychologue, évidemment, t'es là pour ça. Alors. Et alors, va dans l'autre sens dans ce cas-là. Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, la souffrance de l'autre, l'autre a l'impression que tu ne reconnais pas sa souffrance.
Si je ne la rejoins pas là où elle est, si je dis oh là là, il n'y a aucune raison de se culpabiliser d'avoir perdu.
Tu parles de raison.
C'est un jeu aussi. Comment vous avez dit tout à l'heure?
Je suis désolé. Tu vois, dès qu'on s'appuie sur les pensées, il y aura toujours des conflits. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est tellement évident qu'il n'y a pas de culpabilité que ça traverse.
C'est votre ressenti à
vous. Oh, c'est plus que mon ressenti, ça, je le vois. Pas forcément immédiatement tout de suite. Parfois, je comprends, tu te sens coupable, j'entends, tu te sens coupable. Ça dépend. Ça dépend, il n'y a pas de loi, tu vois. Mais surtout, comment ça se fait que toi, tu lui dis, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu dis ça?
Je dis qu'elle a des raisons. Je rejoins la collègue.
Donc, elles les ont toujours entendues, alors.
Oui, c'est ce que...
Je te dis que parfois, il arrive que l'autre ne soit pas entendu, se sente pas entendu.
Quand vous dites, il n'y a pas de raison de souffrir quand on a de culpabiliser, quand on a...
Moi, je ne dis pas ça, moi. Il y en a plein de raisons, toutes les pensées crues. Je dis qu'en réalité, c'est lié à des pensées crues. C'est qu'en réalité, il n'y a rien. Qu'en réalité, la souffrance est construite à base de pensées crues. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas.
plus dans l'aspect relationnel que ça me pose question.
Ah oui.
Parce que là, je comprends votre idée. Simplement, quand en face, dans la relation, si on a quelqu'un qui souffre en face de nous, c'est difficile de... Parce que,
comme je te disais tout à l'heure, je suis plus touché qu'avant. Pas moins, plus. Le nombre de fois où j'ai les larmes aux yeux face à la souffrance des autres, tu ne peux pas imaginer. Et cette femme qui me dit qu'elle ne se sentait coupable, mais moi ça me met les larmes aux yeux. Elle voit tout de suite que je suis touché. Elle se sent tout de suite entendue. La question ne se pose même plus. Moi j'ai qu'une envie, c'est de la serrer dans mes bras et de dire mon pauvre chou. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme en même temps je la prends dans mes bras et je dis mon pauvre chou, elle n'est pas rejetée, elle n'est pas jugée, elle n'est pas condamnée. Donc, c'est qu'elle n'est pas coupable. Toi, ça se passe de mots, ça, c'est pas forcément quelque chose qui passe par les mots. Tu dis, mais t'as pas de raison de te sentir coupable. Sûrement pas, ça n'a aucun sens. Je dis pas que je ne sortirai jamais parce que parfois je fais aussi des choses qui n'ont pas de sens. Mais toi, ce que je veux dire, c'est dans la présence ce qui se passe. Mais si tu te sens coupable, puis tu as quelqu'un qui dit « Mon pauvre chou, viens dans mes bras », puis qu'il dit gentiment avec tout l'amour du monde, si tu n'as pas de raison de te sentir coupable, tu y es pour rien, ça va être entendu autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans cet amour, c'est dans cette présence que ça se passe. Bah, sinon, c'est encore un coup monté, c'est encore une stratégie, ça ne marche pas. Et c'est parce que je suis touché, on pourrait dire, sauf que je ne fais rien pour, ça arrive. C'est doux. Ah oui. C'est à la fois ça pleure et à la fois c'est que de l'amour, c'est que doux, ça peut être doux.
Ça me semble bien parce que
mais oui.
Quand on est psychologue, on évite aussi de trop être touché. On est dans l'empathie. Même les fois où j'ai été très touchée, j'ai été touchée, quoi. J'ai été mal.
Mais pourquoi tu n'auras pas le droit d'être touché? Mais parce que tu dis je ne dois pas être touché. C'est-à-dire que être touché est mis de côté, est refoulé. J'ai pas le droit. Mais j'ai pas le droit, c'est une pensée crue, enseignée à la fac, je ne sais pas où. Enlève-la. Et tu es touché aux larmes par quelqu'un en face de toi. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus humain que ça? Où est le problème?
Explique-moi. Comment tu vas le porter après?
Comment tu vas le porter? Mais comme tu portes un enfant, naturellement. Comme tu tiens quelqu'un dans tes bras, naturellement. Comme tu fais l'amour, naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus naturel. Comme tu regardes un arbre, naturellement. Où est le problème? L'idée que je n'ai pas réussi à le supporter, que ça va être dramatique, que je ne sais pas savoir le gérer, ce sont des idées. Mais si tu laisses ta nature faire, ben je te garantis que tes gens ils vont rester moins longtemps en consultation. Tu auras peut-être un problème après. Financier. Bon, ben je vais essayer de m'en prêter. Tu vois ce que je veux dire? Alors, en institution, c'est peut-être encore plus difficile. Je sais pas. Parce qu'il y a plus de cadre, il y a plus de conditionnement, il y a plus de il faut. Puis tu peux rompre les cadres, c'est plus difficile parce que le regard des autres. Ça veut dire que tu dois aussi regarder comment c'est pour toi le regard des autres sur toi. Est-ce que toi, tu es vraiment tranquille avec être touché? Est-ce que toi, tu es complètement dans être ce que tu es à l'instant? Ou est-ce que le regard que vont porter les autres, que vont dire les autres, comment tu vas être jugé, a encore une influence? Sur quel cas, c'est ça qui va faire bien premier. Parce que moi, j'en ai rien à faire de ce que les autres pensent de moi.
Il y a la pathologie psychiatrique qui fait qu'on est aussi parfois obligé.
Alors là, tu me parles d'une autre sujet, tu parles de psychiatrie maintenant, je parle de psychologie.
Ah, ben je suis psychologue et j'ai des gens qui me sont psychiatriques.
Voilà, on en reparlera peut-être si tu viens ce week-end. Oui, non, mais alors là, on peut en parler, je suis pleinement en psychiatrie, donc c'est bon. Mais pour moi, c'est guère différent, tu sais.
Ils sont beaucoup plus envoyés par ces pensées crues en psychiatrie.
Ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Ça dépend, pas toujours, mais oui. Mais. J'ai eu quelquefois peur de la violence des psychotiques, de vrais psychotiques. Mais c'est c'est assez rare. En réalité, ils ne sont pas si dangereux que tu vas te faire croire. Mais si, bon, on va trop dans des choses trop précises, tu vois, mais en tout cas, c'est pas comme on t'a appris. Ça, pour moi, c'est une évidence. Comme on nous a appris, parce que je me suis dit à cette école-là, c'est pas comme ça.
Ces croyances, je me rends compte qu'elles permettent de me raconter des histoires.
Oui.
Et si j'enlève des histoires, c'est comme du cinéma, ça.
Exact.
Si j'enlève ça, qu'est-ce que j'ai d'être j'ai tort.
Ah, mais regarde. Alors, deux choses. Un, le vide, il est constaté. Qu'est-ce qui constate le vide? Est-ce que ceux-là qui constatent le vide est vide?
C'est la trouille, hein.
Mais regarde. Oui. Le vide, il est constaté.
Oui.
Qu'est-ce qui le constate? J'ai pas dit qui, que. Qu'est-ce qui le constate? Qu'est-ce qui constate le vide? Tu me dis, il y a un vide. Qu'est-ce qui constate qu'il y a un vide?
Ça doit être une pensée.
Non, pas ça doit être, regarde. Ça doit être une pensée, c'est une pensée. Qu'est-ce qui constate le vide? Il y a bien quelque chose qui constate le vide.
Est-ce que...
Il y a quelque chose qui dit c'est vide.
J'observe.
Mais qu'est-ce qui observe?
L'observateur.
Ben... Rencontre-le, cet observateur. Ressens-le, l'observateur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ok, ça paraît vide. Reste avec le vide, est-ce que c'est vraiment vide? Reste avec le vide encore et encore. Et puis, bien sûr, il y a la peur. Donc, la peur, il va falloir la rencontrer aussi. On ne peut pas en faire l'économie. Mais la peur a besoin d'être rencontrée. Tant qu'elle n'est pas rencontrée, tu ne pourras pas franchement rencontrer le vide non plus. Mais ce n'est pas vide en réalité, c'est vide que pour le mental. C'est vide de penser. Mais ce n'est pas vide, vide de penser. Quand tu es scotché par la beauté d'un paysage, il y en a beaucoup de pensées? Non. Et ce n'est pas vide. Souviens-toi les moments les plus heureux de ta vie. Il n'y avait pas une pensée, jamais. Parce que dès qu'il y a des pensées, on ne sent plus le bonheur.
C'est ça la vacuité
en bouddhisme? Oh non, ça non. Non, c'est encore autre chose. Et ce qui apparaît vide là tout de suite, parce que tout d'un coup on se confronte à l'absence d'histoire, ce n'est vide que pour l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Alors bien sûr, ça, c'est un peu bizarre. C'est comme si on allait dans une salle de cinéma, s'asseoir tous ensemble et regarder l'écran blanc pendant 2 heures. Et on pète pour ça. C'est sûr que ça fait bizarre, mais attends, je viens pas là pour ça, hein. Moi je veux des images sur l'écran, je veux une histoire. On est amoureux des histoires, on veut des histoires, c'est pour ça qu'on croit toutes les pensées. Moi aussi, c'est aussi une raison. Alors mais attends, mais c'est vide s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a qu'un écran blanc, c'est pas intéressant, sous-entendu. Au début ça paraît comme ça.
Ouais.
Ben oui, évidemment, au début ça paraît comme ça. Reste avec, tu verras. Mais déjà, il y a encore une histoire, il y a la peur. Ça, c'est une sacrée histoire, celle-là. Elle t'a pas encore lâché.
Et l'émotionnel, derrière. On s'attache à notre histoire.
Ben évidemment.
Si je m'en détache, eh ben,
qu'est-ce qui me reste?
Qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus d'émotions, mais je vis avec mes émotions.
Non, ben, c'est pas vrai, il y en a encore des émotions.
Oui,
mais bon, ça ne s'accroche plus.
Finalement, quand tu regardes l'écran, même s'il est blanc, tu regardes quand même l'écran.
Ça fait l'expérience, rester 2 heures assis au salle de cinéma à regarder l'écran, toute lumière éteinte.
Qu'est-ce que vous pensez de la notion
de pardon? C'est comme tout le reste. Il n'y a personne qui peut pardonner. Parce qu'il n'y a pas un moi qui peut pardonner ou pas pardonner. Mais comme il n'y a pas de moi, que personne n'a jamais rien fait de soi-même, que tout est arrivé de soi-même, il n'y a rien à pardonner. Tout est déjà pardonné. Avant même que tu apparaisses. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, ça ne gueule pas un coup parce que ce que tu as fait là, c'est pas très propre. Tu vois ce que je veux dire? Ça va quand même aligner quand il faut aligner. Mais ça n'a pas d'accroche, ça n'en veut pas à l'autre pendant je ne sais pas combien de temps. Ça gueule un coup, c'est fini. Ou autre chose. Ça peut être dans un éclat de rire. Hein. Parfois, le rire est plus fort que crier un coup. Qu'un regard espiègle, tu vois. Je t'ai vu. Et ça sort, ça vient. C'est pas calculé, tout ça. Ça sort. Je suis juste en train de dire ce qui peut se passer ici, c'est tout. Qui ?
C'est le mental.
C'est vrai, une pensée crue. C'est la folie du mental. Et oui, c'est la folie du mental. Le mental tout puissant. Mais regarde le monde par quoi il est dirigé. Par des pensées crues. Et regarde comment ça tourne. Enlève toutes les pensées crues. Eh bien, il s'est dû à quoi ? Mais c'est lié à quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui veulent avoir le pouvoir ou l'argent ? Parce qu'ils tremblent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'il y a plein de pensées crues. Ils croient qu'ils seront heureux quand ils auront de l'argent ou le pouvoir. C'est encore des croyances. Les croyances sont nichées partout. C'est lié à des croyances. C'est lié à des croyances. Il y en a qui sont naturellement leaders, il y en a qui sont naturellement boulangers, il y en a qui sont naturellement tout et n'importe quoi. Heureusement, il faut tout pour faire un monde. Mais l'appétit de pouvoir, un vrai leader n'a pas d'appétit de pouvoir. L'appétit de pouvoir, c'est construit, c'est à base de concepts, de pensées crues. Je suis quelqu'un si j'ai le pouvoir. J'ai l'impression d'avoir une consistance, si j'ai une histoire personnelle, si j'ai une valeur à mes yeux, aux yeux des autres, si les autres me respectent, si les autres, je ne sais pas quoi. Si je dirige, si je commence, et puis moi je sais mieux que les autres ce qu'on doit faire, et puis je sais pas quoi. Tout et n'importe quoi, c'est tout des pensées crues. À un moment donné, les femmes enceintes, on leur dit qu'il faut arrêter de manger salé. Ça ne marchait pas. On leur a dit manger plus salé qu'avant. Ça ne marchait pas. Finalement, on leur a dit manger donc naturellement. Si ça, c'est pas lié à des pensées crues. On a payé les paysans bretons pour qu'ils fassent de remeublement et qu'ils arrachent les haies. Puis on s'est rendu compte que l'eau, elle dégoulinait sur la terre, elle ne pénétrait plus dans le sol. On les a payés un peu plus discrètement pour qu'ils mettent des haies. Si ça, c'est pas lié à des pensées crues. C'est dans tous les domaines pareil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On protège les locataires, on édicte des lois. Alors qu'est-ce que font les propriétaires ? Ils louent plus. Ou ils louent sous condition de... Enfin, etc. Quoi, je veux dire. On protège les salariés en rendant des trucs politiques. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et forcément, il y a une contre-mesure qui est prise. Ça s'appuie toujours sur des pensées crues. Pas sur ce qui est, pas sur ce que je suis en réalité.
Et c'est quand même une remise en question importante.
Ah oui ?
Difficile.
Pour venir de...
Oui. Même à notre...
Moi, je trouve pas. Non. Non, parce qu'en réalité, ça fonctionne toujours dans le monde. Je continue à payer mes impôts, à dire bonjour à la dame, etc., etc. Tu vois ?
C'est plutôt une distanciation vis-à-vis de l'eau, surtout de l'autre senti.
Non. Au contraire.
Si on reçoit quelqu'un qui nous regarde de travers, ça nous fait un déplaisir. On s'aperçoit que elle regarde, on s'aperçoit qu'on prend conscience que la personne nous a mal regardé, qu'on croit qu'elle nous a mal regardé, on en reçoit un déplaisir, puis après ça passe. Donc je pensais au départ, à propos de, surtout à, on peut commencer à propos de sentiments, d'émotions.
Mais c'est pas un détachement, c'est pas moins ressentir, c'est plus ressentir. Très exactement ce qu'il se passe. Ton exemple est très bien choisi. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde de travers. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps à ce moment-là. Dans le corps, il y a une tension quelque part, on va dire. Ou bien cet organisme, enfin cet être hôté, il s'en fiche et voilà, voilà, le regard ne se porte pas dessus. Ou bien c'est suffisamment fort pour que ça se dise tiens, il se passe quelque chose. En fait, presque, ça commence par sentir ce qui se passe dans le corps avant de voir le regard de travers. Ou alors les deux à la fois, tu vois. Et alors, c'est pas moins ressenti, c'est plus ressenti. Mais c'est pas trafiqué à base de pensée. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, oh tiens, Il se passe ça dans le corps. Et alors, il y a être avec ce qui se passe dans le corps. Réellement. Et alors, ce qui se passe dans le corps est vraiment vécu, sans être refusé, sans être sans peur, sans vouloir en faire quelque chose. C'est rencontrer, c'est regarder, c'est aimer, c'est être avec.
Quoi ?
C'est pas une, ça, elle se fait automatiquement. C'est pas une conscientisation volontaire. C'est comme il y a quelque chose. Tu vois, quelqu'un me heurte, je vais le sentir. Ben, ça regarde automatiquement. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, quelqu'un me regarde de travers, ça, il se passe quelque chose dans le corps. S'il se passe quelque chose dans le corps, c'est regarder automatiquement. Sans effort. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, comme il n'y a pas de peur, comme il n'y a pas de rejet de la chose, comme il n'y a pas d'histoire autour, et que ce n'est pas à moi que ça arrive, mais en moi, en cet organisme, en ce que je suis, il n'y a rien, ça ne s'en défend absolument pas. Donc c'est complètement accueilli, c'est complètement vécu, et puis ça s'effondre de soi-même. Ou bien ça dit qu'il y a une pensée qui est vue du style « pour qui il se prend celui-là » par exemple, et puis elle est vue comme sans objet, elle s'effondre, ou bien simplement être avec la sensation suivie et ça s'effondre. Puis ça sourit à l'autre ou n'importe quoi qui m'a regardé de travers. Rien à faire. Pas affecté. Pas affecté plus que, tu vois, le temps que ça heurte et que ce soit regardé, c'est quelques secondes. Le plus souvent. Mais c'est pas un devoir. C'est comme un automatisme. C'est comme je disais tout à l'heure. Il n'y a aucun effort à faire pour que les yeux voient, pour que les oreilles entendent. C'est automatique. Ça se fait de soi-même. Et c'est pareil, à condition d'avoir les yeux ouverts et pas, d'avoir les oreilles débouchées.
Mais parfois, des gens qui regardent, qui ne voient pas, qui entendent, hein, qui écoutent, mais qui n'entendent pas.
Ben, ils ont les oreilles bouchées, au fond, on ne leur a pas appris à regarder. Enfin, même pas, non, d'une façon naturelle, je veux dire. Il y a des maladies et tout, mais d'une façon naturelle, ça entend et ça voit, quoi. C'est naturel.
On est quand même perturbé par des facteurs extérieurs aussi, hein. On ne l'oublie pas.
Oui.
Parce qu'il y a un parallèle avec nous qui qu'on ne peut pas éviter.
Il ne s'agit pas de l'éviter, il s'agit de le rencontrer. Oui. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, en fait, ce que vous voulez souligner. On n'est pas
seul. Même si on est isolé, on n'est pas seul. On est toujours influencé par quelque chose extérieur. Ce n'est pas forcément que la pensée.
Ah, évidemment, évidemment, oui. Mais c'est juste ce qui est assez naturel. C'est naturel.
Il y a des gens plus ou moins sensibles par rapport à tout ça. Tout le monde n'agit pas de la même manière.
Oui, on est tous différents. Et on réagit tous plus ou moins différemment à différentes choses. Il y en a qui aiment le froid, d'autres la chaleur. Certains les bains de mer, les autres la montagne, etc. Ça va demeurer, ça. Mais ça n'entrave en rien le bonheur que je suis. Le bonheur que je suis n'a rien à voir avec tout ça. La paix que je suis n'a rien à voir avec tout ça. Ne dépend pas des événements. L'amour que je suis ne dépend pas des gens qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas. Ou de ce qui se passe dans ma vie. Ça n'a rien à voir. Ce que je suis, je le suis. Et vous l'êtes, chacun de vous. C'est pas moi, c'est tout le monde.
Mais comment aller vers ce regard profond, si rien que le fait de le désirer, c'est une pensée?
Eh oui.
Tu es un regard. Ne croyez pas qu'il y ait quelque chose à développer. Il n'y a rien à acquérir, il n'y a rien à mériter. Vous êtes exactement ce que vous cherchez. Vous cherchez le bonheur, vous êtes le bonheur. Vous cherchez l'amour, vous êtes l'amour. Vous cherchez la paix, vous êtes la paix. Vous cherchez l'unité, vous êtes l'unité. Vous cherchez le regard, vous êtes regard. C'est simple. Tout ce que vous cherchez, vous l'êtes.
Comment savoir que ce n'est pas une pensée crue ?
Je le vois directement.
Est-ce que ce n'est pas plus du ressenti ?
Mais évidemment. Pour moi, c'est ce que je suis. C'est même plus au niveau du cœur. C'est même plus au niveau du cœur ou de la tête. C'est ce que je suis en amont du corps et qui se traduit dans le corps. Qui se traduit dans cet organisme. Mais c'est ce que je suis. Je ne suis pas le corps. Enfin, le corps, je le suis aussi. Mais c'est je ne sais pas combien de pourcentage de ce que je suis. Ce que je suis est. joie, paix, amour, unité, regard, etc. Et se manifeste en tant que cet organisme et tout ce qui se passe à travers cet organisme. Le regard a changé. C'est pour ça qu'on parle de perspective. Au lieu de croire qu'on est cet organisme avec tout ce qui lui arrive, il est réalisé que l'on est cela au sein duquel apparaît l'organisme. Et que l'on est cet amour, cette joie, cette paix qu'on a toujours cherché. Et ce regard. C'est comme remettre en route une fonction naturelle. C'est le seul petit effort qu'il y a à faire. S'y revenir sans cesse, si même si c'est qu'une seconde à la fois, aussi souvent que ça y pense, non pas que j'y pense parce que tu ne peux pas y penser, mais que ça, que l'idée vient, que l'idée apparaît. Ne pas s'efforcer, en ce sens-là, c'est pas s'efforcer, et revenir. Et puis plus tu vas m'entendre parler de tout ça, plus ça va se faire. C'est-à-dire être en contact avec des choses de cet ordre-là qui vont ramener au regard encore et encore. Tu vois. Depuis qu'on est né, on nous a dit « oublie de regarder ». Maintenant, il est temps qu'on dise « regarde ». Mais si tu veux, il faut un peu de temps pour que ça se fasse parce qu'on nous a appris à ne pas le faire. Mais c'est tout. Il faut enlever un conditionnement pervers, en soi, psychiatrique pur du terme. Pardon.
En toi, ça s'est passé comment ? Ça t'est arrivé d'un coup ?
Mais Dieu non, c'est une longue aventure. Je ne saurais pas trop où elle a commencé. Ça a été un chemin semé d'embûches, d'erreurs, de croyances. Et c'est aussi pour ça que j'insiste sur ces pensées crues, que j'insiste sur la vision directe, que j'insiste sur croyez rien de ce qu'on vous dit. Chez moi, il s'est passé pas mal de choses. Si tu veux, la première expérience mystique, c'est à la... plus de 30 ans.
Au 13e étage.
Exact. Ouais. Mais ça a été récupéré par le mental à l'époque parce que ça connaissait rien du tout de tout ça. Si tu veux. Alors après, ça a erré par pas mal de chemins. Et puis, ça a vu... Bon, j'appuie sur la face. Ça a vu qu'il n'y avait pas de moi. Ça a vu, ça a réalisé d'une certaine manière. Mais chez moi, ce qui a fait que ça a mis autant de temps, c'est qu'il n'y a personne qui m'a dit, qui m'a vraiment accompagné en gros. Il y a des choses comme ça qui se passaient. Et c'était toutes mes croyances à propos de l'éveil. C'est-à-dire que j'ai longtemps cru que l'éveil était caractérisé par un état de béatitude, de sainteté, de etc. Comme tu vois, jouer les violons, les grands mystiques, comme si c'était ça en permanence. Non, ça c'est une expérience d'éveil. C'est l'expérience qui peut éventuellement se produire au moment de l'éveil. Mais ce n'est pas le quotidien de l'éveil. L'éveil c'est complètement banal, ordinaire, naturel, naturel. Toutes les fois, on pourrait dire toutes les fois où il y a simplement bien-être sans raison. C'est ça l'éveil. Mais c'est simple, c'est naturel, c'est banal. Quoi. Enfin, je veux dire.
Quand on est avec un enfant.
Par exemple, ça peut être n'importe quand. Ouais, ça peut être n'importe quand.
Et si on le touche une fois.
Mais tu l'as déjà touché des milliers de fois. Tu le touches tous les jours. Dès l'instant où il y a un intervalle entre deux pensées, c'est là. Mais c'est pas vu. Et surtout, même si c'est entreaperçu, c'est jugé comme pas intéressant, c'est l'écran blanc qui intéresse personne. Presque ça fait peur.
Mais si c'est vu, reconnu, mais que ça part.
Ben, ça
tout simplement.
Alors, il y a deux causes, à ma connaissance, essentielles. La peur et les croyances à propos de l'éveil. La peur, c'est chacun a la sienne, mais elle nous chevit au corps. Et ça peut être la peur de la mort, de la dissolution, de l'ennui, de plein de trucs. Et les croyances à propos de l'éveil, c'est ce que je disais, quoi. Croire que l'éveil, ça va être caractérisé par telle chose. Et donc, si je me mets en colère, c'est que je ne suis pas éveillé, ou si, tu vois...
Moi, j'ai une croyance, c'est que l'éveil arrive au moment de la mort.
Moi, c'est une croyance. Je ne crois pas que cet organisme soit mort. Il me semble que cet organisme est bien vivant. Maintenant, je peux me tromper. Non.
Mais si on est dans la créativité, je ne sais pas,
par exemple,
on dessine, il n'y a plus de pensée.
Exact.
Et il peut y avoir, on est bien.
Il y a être-té, exactement. Il y a être-té. Ça rejoint complètement ça. Et à ce moment-là, dans cette créativité, est-ce qu'il y a l'idée d'un moi qui pilote ?
Non.
Donc, quand je suis bien, il n'y a pas l'idée d'un moi qui pilote. Quand il y a l'idée d'un moi qui pilote, il faut que je fasse super gaffe. Il y a une contraction, il y a de la peur, c'est fini, c'est la fin des haricots. Est-ce qu'il y en a un de moi ? Quand je suis en train de créer, quand la création s'exprime, il n'y a pas l'idée d'un moi. Mais si à ce moment-là tu regardes, est-ce qu'il y en a un de moi ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Tu ne regardes plus la créativité. Tu regardes que ça se fait. Ça se fait de soi-même. Ça crée. Et à ce moment-là, regarde, est-ce qu'il y a un moi ? Est-ce qu'il y a un pilote ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas ?
Moi, ça pourrait être l'esprit critique qui dit « mais ça, c'est pas bien ».
Est-ce qu'il y a un pilote à la créativité ou est-ce que la créativité se produit dans ton expérience ? Pardon ?
Je veux dire que ça peut être les deux, il peut aussi y avoir le pilote.
Il n'y a plus de quoi ce pilote ?
Ça, pour moi, ce serait l'œil critique ou la peur, oui, de ne pas arriver à faire quelque chose.
Est-ce que la peur est un pilote ? Est-ce qu'un regard est un pilote ? Donc, c'est encore pas un pilote. Il y a l'idée d'un pilote. Il y a l'idée d'un pilote qui serait le regard critique. Il y a l'idée d'un pilote qui serait, je ne sais plus ce que tu as dit, la peur. Mais en réalité, ni la peur ni le regard critique ne sont un pilote. Donc, y a-t-il un pilote ?
C'est l'être, en fait, le pilote. Enfin,
est-ce que l'être pilote quelque chose ? Essaye d'arrêter d'être. Contacte cet être-té. Est-ce que cet être-té fait quelque chose ?
Ça vient tout seul.
Ça vient tout seul. Et ça va à l'encontre de tout ce que tu as appris. Mais c'est quand même comme ça. Mais tu vois que c'est direct, le regard il est direct. C'est pas une croyance que tu vois, je te pose une question, c'est toi qui me dis ah ben non, c'est pas comme je croyais. C'est ça le regard direct. Mais tu vois, il y a besoin de cibler précisément, regarde exactement comment c'est. Et pas selon ce que tu as toujours cru parce qu'on t'a appris comme ça. Tu as parlé de créativité à ma droite là.
Réfléchir pour concevoir ce qu'on a.
Et
enfin, moi, personnellement, je crée. Oui, ça peut être une création spontanée.
Oui.
Mais ça peut être une création aussi réfléchie et après.
Explique-moi.
Réfléchir dans le choix des couleurs, des techniques.
Attention, on va distinguer le mental pratique, 2 et 2 égale 4, il est quelle heure, telle la rouge, ça va avec le bleu ou je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire ? Du mental qui raconte une histoire, 2 plus 2 égale 4, c'est une convention ok, mais c'est bien pratique. Tu vois, mais il n'y a pas d'histoire autour, mais 2 et 2 égale 4, ouais mais tu comprends, ça me saoule les mathématiques, là ça devient une histoire. Je ne parle que du mental qu'on dit discursif, qui raconte une histoire. Pas du mental pratique. Hein? Donc si c'est dans la créativité un côté pratique, ça apparaît aussi de soi-même. Tu vois, parce que c'est lié à des connaissances, lié à des conditionnements, lié à une culture, parce qu'on ne va pas prendre la même couleur dans une culture et dans une autre, etc. Qui ne veut même pas dire la même chose d'ailleurs. Ils ne sont pas ressentis pareil par l'organisme. Mais tout ça, c'est aussi conditionné. Mais la créativité elle-même, même si elle passe par une phase apparemment réflexive, est-ce que ces réflexions, elles apparaissent ou est-ce que c'est qu'il y a quelqu'un qui les pense ? C'est ça la différence. Regarde. Et si tu regardes, forcément, tu vois qu'il n'y a personne qui n'en a pas. Tu ne veux pas trouver un moi ?
Ça se fait tout seul, et quand ça aboutit, ça s'arrête.
Et voilà.
Je vais dire
l'autre. Ah ben oui. Et il n'y a personne qui dit que c'est fini. Oui. Ça s'arrête. Eh ben oui. Et si toute la vie était comme ça ?
Ça serait bien.
Ce serait vide, hein ? Et à courant, hein ?
J'ai pas voulu en faire parce que je suis remarqué ça. J'ai pas voulu.
Eh oui, mais regarde.
Mais quand je crée, j'ai bien.
L'ennui, c'est une pensée.
Et quand je suis dans la création, j'ai pas d'ennui.
Ben oui.
Je suis bien.
Ben oui.
C'est
si c'est toujours comme ça, c'est bien. Pour moi.
Mais regarde l'ennui. Il y a peur de l'ennui, ça veut dire au moins deux pensées. Pensée de futur et pensée d'ennui.
Pensée de quoi?
De futur et pensée d'ennui. Il faut qu'il y ait une idée future pour avoir peur de s'ennuyer dans le futur. Tu vois, là tout de suite, j'espère que tu t'ennuies pas. Donnez les bâtons pour vous faire battre, ils les saisissent. Mais tu vois, le jeu, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de le construire. L'ennui, c'est une pensée. L'ennui, c'est une pensée. Si tu regardes de quoi est fait l'ennui, déjà regarde comment ça vide encore l'idée de s'ennuyer, l'impression de s'ennuyer, tu t'ennuies déjà plus. L'ennui, c'est une pensée qui crée une impression dans le corps. Si lorsque tu t'ennuies, tu regardes l'ennui, la manière dont ça se manifeste dans le corps, tu vas revoir qu'il y a des sensations qui sont étiquetées ennui, qui en fait ne sont même pas du tout désagréables, souvent même agréables, et que dès l'instant où tu regardes ça de près, il n'y a plus d'ennui. Regarde! Je ne me crois pas sur parole. Regarde, moi, j'ai beaucoup fréquenté l'ennui. Je sais de quoi je parle. Il ne m'ennuie pas. Plus.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus réellement être?
Alors, dès l'instant où il y a l'idée « je vais trouver ce qu'il faut faire pour », ah, il y en a qui ont compris. On est dans une stratégie fondée sur l'idée qu'il y a un moi qui peut faire quelque chose. Or, il n'y a pas de moi qui puisse faire quelque chose. Donc, c'est perdu d'avance. Souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes regard, nous sommes regard, nous sommes être-té, nous sommes ce que nous cherchons. Il n'y a rien à faire pour l'être, nous le sommes déjà. Le seul y revenir aussi souvent que possible, même si c'est une seconde à la fois, être avec tout ce qui permet d'y revenir, sans en faire une stratégie pour, si ça t'intéresse, si tu préfères aller faire du kayak sur la rivière à côté, va faire du kayak sur la rivière à côté. Ce sera mieux que de te forcer à méditer. Il n'y a pas une chose spécifique à faire, il y a plus tu vas être dans le courant naturel de cet organisme et de ce qui va aller avec cette être-té, plus ça va se faire naturellement. Sinon, c'est de nouveau mettre des barrages sur le mouvement naturel de la vie, enfin, en face du mouvement naturel de la vie, c'est pas la peine. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le seul effort qu'il faudrait pouvoir faire si on pouvait faire quelque chose, ce serait ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Parce qu'on nous a appris à les fermer. Porter le regard sur ce qui se passe dans cet organisme, au niveau des pensées, au niveau des sensations, au niveau des émotions. Les émotions sont toujours liées, ou presque toujours liées à des pensées. Il y a très peu d'émotions pures. Très très peu. En Inde, ils parlent d'organisme corps-mental, et j'ai posé la question à un sage hindou qui m'a dit « mais les émotions, c'est des pensées ». Et c'est vrai. Bien sûr. Mais si on regarde, on va vite la voir. Ben, si tu regardes, tu vas vite voir. Si tu pars du principe que forcément il y a une pensée en plus, ou simplement tu reviens, si jamais les pensées ne sont pas claires, simplement revenir à la sensation corporelle. Il y a une émotion, il y a une sensation corporelle. Souvent c'est très fin. Il y en a plein qui n'arrivent pas à trouver la sensation tellement c'est fin. Ils disent « Oh là là, qu'est-ce que je souffre? J'ai le cœur brisé, ça me tord le ventre. » Mais qu'est-ce que tu ressens exactement? Les mots? Ah, je ne sais pas. Mais je souffre. Ah oui. Mais physiquement, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. Regarde de près. Ah, c'est un petit peu tendu là. Pas de quoi fêter un chat. Non, reste avec. Ah, c'est marrant, c'est doux. Et pouf, l'émotion, elle s'effondre. Ou alors, ça passe par la pensée crue apparaît. Mais pas forcément. Mais il y a toujours des pensées crues liées aux émotions. sauf les rares émotions, être émotion pure, comme être touché aux larmes.
Pour toi, tu dis que tu as plus d'émotions qu'avant.
Non, pas plus d'émotions qu'avant. Je suis plus touché qu'avant par la souffrance des gens, par exemple, par plein de choses qui peuvent se passer, par l'amour des uns pour les autres, par un geste dans la rue, par les gens, simplement aller voir, c'est tellement beau, tu vois. C'est une émotion pure, ce qu'on appelle pas liée à une pensée, celle-là. Il m'arrive encore d'avoir des mouvements de colère, de tristesse, etc. Ça ne dure pas, généralement. Ça arrive encore. Mais pas plus qu'avant, moins. Parfois plus fort. Il y en a pour l'instant qui ont tendance à la colère. Je m'étonne des fois à bondir de colère. Il n'y a plus de peur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de peur. Avant, je pense qu'il y avait des mouvements de colère qui étaient réfrénés par la peur. Et que maintenant, il n'y a plus la peur, donc la colère, elle sort là. Il y a un petit travail à faire de regard. Par contre, ça ne dure pas. Tiens, il y a un mouvement de colère, ça dure... quand c'est 10 secondes, c'est déjà très 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 long. Et puis après, ça rigole. À l'intérieur au moins. Quoi. Ça ne dure pas et ça ne colle pas, ça ne tient pas.
J'ai déjà vu que la notion de conscience comme ça, c'est aussi détruit chaque personne. C'est comme si chaque personne était un peu soi. Est-ce que tu dis ça?
Ça dépend. Oui et non. C'est pas... N'allez pas croire que l'éveil se caractérise par vivre que le monde est en nous, que nous sommes le monde, etc. C'est éventuellement quelque chose qui peut venir petit à petit après, mais même pas forcément. Et c'est quelque chose que je vois plus chez les femmes que chez les hommes, dans mon expérience, dans les gens que je connais. Oui, ça peut arriver, mais je ne cherche pas, rien à faire, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui se passe, c'est que si je suis avec quelqu'un, enfin, si je suis dans un groupe ou des choses comme ça, souvent je sens plein de choses de ce qui se passe. Je le vis en moi, évidemment, et je vis l'autre en moi, oui. Mais pas déjà avant. Je ne parlerai pas de pratique, je parlerai plus d'unité à la limite. Je parlerai de. Il n'y a pas de différence entre moi et l'autre d'une certaine manière. Ce que je suis, je le suis. Et le monde apparaît en moi. Cet organisme apparaît en moi, mais tout ce qui apparaît apparaît en moi. Alors, le monde entier apparaît en moi, donc les autres aussi apparaissent en ce que je suis. Dans ce sens-là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. C'est pour ça qu'on touche direct, tu vois, sans filtre, il n'y a pas... Et sans aucune idée que ça va avoir à s'en défendre, ou je ne sais pas quoi. C'est complètement tranquille et en paix en même temps. C'est ouvert. Et parfois, ça chute à l'intérieur, mais bienvenue. Bienvenue, c'est ça aussi qui est différent. C'est que... Rien contre lequel se défendre. En fait, pourquoi est-ce que les gens, d'une façon générale, ne ressentent pas les autres en eux? Parce qu'ils croient qu'ils sont cet organisme. Parce qu'on leur a appris à limiter leur regard, leurs sensations, leurs perceptions. Mais de façon naturelle, on sent en soi les choses. Plein, plein, plein de choses. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense, d'avoir pris une fois un chemin sans savoir pourquoi, puis comme par hasard, il se passe un truc inédit. Ou de, je sais pas, tomber en arrêt devant une vitrine, dire ah tiens ça c'est pour un tel, puis aucune raison de lui offrir ça, mais c'est sûr, on lui achète, on lui offre sans raison, ou je sais pas moi, on appelle quelqu'un, justement il nous appelle en même temps, enfin c'est bien que ça sent en nous plein de choses, tout le temps, simplement c'est gommé de la surface de la conscience parce que c'est pas dans le cadre. On pense qu'on peut pas sentir ce que vivent les autres parce que tu comprends. Je suis moi, cet organisme. Mais sauf que c'est pas vrai. Et quand on enlève cette pensée, ça s'élargit. Et, dis donc, c'est bizarre, je sens plein de trucs. C'est quoi ce truc?
C'est-à-dire qu'il y aurait une être-té générale, avec un grand E, que nous partagerions tous?
Quoi d'autre?
Quoi?
Je dirais pas qu'on la partage tous. Nous sommes... là, on parle un petit peu d'un autre niveau encore. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé jusqu'à maintenant que être pris, regarder ce qui se passe, et tourner le regard, et regarder ce qui se passe, et à essayer d'arrêter d'être, je ne peux pas, donc il y a être-té. Ah, il y a l'être-té, le regard ce qui se passe dans le monde, dans ce monde duel. Et puis, il y a rester avec l'être-té, C'est comment l'être-té ? Être avec ce qu'il a, cela qui ne peut pas ne pas être. Le regard se retourne vers l'être-té. Il oublie un peu l'existentiel. Mais il y a plus encore. Restez avec l'être-té. L'être-té, elle est connue. Ce je suis, il est connu. Qu'est-ce qui le connaît? Là, le mental de Dijon. Ou encore, je suis conscient. L'être-té, c'est je suis. Mais qu'est-ce qui constate je suis? Qu'est-ce qui constate je suis? Qu'est-ce qui constate tout ce qui peut être connu? Regarde. Se passe.
C'est lui-même.
Tu sens? Blow up, tu sais, c'est soufflé. Le mental est soufflé. Et pourtant, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais il y a quelque chose, c'est indubitable, mais c'est insaisissable, inconnaissable, innommable. Le sans-nom. Hein? Tu vois? Et c'est, ça, c'est ce que j'appelle ce qui est. Il n'y a qu'un seul ce qui est, évidemment. Et en mon sens, il n'y a qu'un seul « je suis ». Et tout apparaît en ce qui est le temps, l'espace et tout ce que ça contient. Les espaces-temps et tout ce qu'ils contiennent apparaissent en ce qui est. C'est la manifestation de ce qui est, vu d'ici. Et c'est un seul et même rêve peuplé de milliards de personnages. Mais toi et moi, nous ne sommes que des, en tant qu'organismes, nous ne sommes que des personnages d'un rêve, du rêve de ce qui est, rêve éveillé. Lorsqu'on rêve la nuit, il peut y avoir 50 personnages dans notre rêve, nous compris ou pas. Et ça paraît réel.
Donc si le rêveur se réveille, il n'y a plus de rêve.
Le rêve continue, il peut être rêve. Il y a un rêve éveillé. Ce qui est ne dort pas. À ma connaissance, ce qui est rêve ne dort pas. C'est un rêve éveillé permanent. Hors temps, hors espace. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour en revenir au rêve, la nuit, lorsqu'on rêve, il peut y avoir 50 personnages dans le rêve, 2000, enfin, on s'en fout du nombre. Ils apparaissent au sein du rêve, le monde du rêve apparaît d'un coup, tout ce qui se passe dans le rêve se déroule, le monde du rêve disparaît d'un coup. Il est remplacé par ce monde de rêve qui disparaît d'un coup au sommeil, peuplé de milliards de personnages. La nuit, il n'y a qu'un seul rêveur, toi. Le jour, il n'y a qu'un seul rêveur, ce qui est.
Donc le rêve n'existe que parce qu'il y a un rêveur.
Évidemment. Et même si tu rêves de toi la nuit, tu n'es pas le personnage rêvé dans ton rêve. Tu es cela qui le rêve. Et ce qui est, ce rêve en tant que 2 milliards de personnes. Il y a un seul rêve. Et nous ne sommes pas cet organisme, nous sommes ceux-là qui se rêvent en tant que milliards d'organismes. En ce sens-là, il y a parfaite unité aussi. Je vois que ça entend. Tu vois que ça ouvre. Hein?
Qu'est-ce que
ferait
l'être si on ne nous rêvait pas?
Si on ne nous rêvait pas.
Non. Que ferait l'être si on ne nous rêvait pas?
Mais ce qui est, il n'a aucune intention, il n'a aucune action, tout cela se fait de soi-même. Qu'est-ce que tu ferais si tu ne rêvais pas la nuit? La question ne se pose même pas, tu rêves la nuit. C'est le... Qu'est-ce qui se passerait si le soleil ne brillait pas? Mais la question ne se pose pas, le soleil brille. Ça se fait, tu vois. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si jamais ça ne répond pas, repose-la moi autrement. Mais tout arrive de soi-même. Et c'est simultané. Ce qui est parfaitement représenté par le symbole du Tao. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. À la fois manifesté et non manifesté, les deux contenus au sein d'un même tout. Ce qui est et cet ensemble qui est à la fois manifesté et non manifesté. Et en tant que non manifesté, il est inconnaissable. C'est l'absence de tout et l'absence de l'absence même, etc., etc. C'est sans fin. Bon, on ne va pas repartir là-dedans, c'est un peu trop. Mais il contient l'espace et le temps, les espaces-temps apparaissent au sein de ce qui est. Comme le rêve, qui paraît avoir un certain temps la nuit, apparaît au sein de cet espace-temps.
Ça, je comprends, mais il n'est peut-être pas limité à ça.
Non. En tant que non manifesté, il n'a rien à voir avec ça. Il est à la fois manifesté et non manifesté, simultanément, dans ce que je perçois moi, hein, simultanément. Et tout ce qui est manifesté est hors espace-temps. Le maintenant dont parlait le cartolé, par exemple, c'est hors temps, hors espace. Ça veut dire que passé, présent, futur, pour ce qui est, tout arrive au même instant. C'est hors temps. Ça veut dire que tout est déjà dans la bobine, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps qui se déroule, sauf en apparence, etc., etc. C'est un instantané. Dans ma vision.
En vertical, comme ça. Moi, je le vois comme ça, non ?
Moi, je ne le vois pas vertical, je le vois comme une totalité instantanée, permanente, permanente. Ça ne bouge pas. En réalité, il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. Il ne s'est jamais rien passé. Sinon, de façon illusoire, non définitivement réelle. Mais là, on commence à toucher les sphères. C'est autre chose. J'ai vu des mains se lever par là. Me suis-je trompé ?
Les aborigènes d'Australie, justement, ils parlaient du grand rêve, se manifester quand on peut. C'est pas ça.
Mais il n'y a pas que. Je veux dire, en Inde aussi, ils disent que c'est Ramana Maharshi qui disait, par exemple, ce qui s'en vient et s'en va n'est pas réel. Ça en fait des choses. Nous, on dirait, n'est pas définitivement réel.
On se croit réel ou ça, tout ça.
Ben oui, mais la nuit, quand tu rêves, tu crois que c'est réel. Et si tu apparais dans ton rêve la nuit, tu crois que tu es réel. Mais quand tu travailles le matin, tu sais bien que c'était pas réel. Ça, la réalité, t'as un rêve.
Des fois, dans le rêve, tu sais que tu rêves.
Hein. Oui, ça arrive.
C'est quand même plus que tu sais, Descartes, quand tu sais, je pense, je suis. Donc, je pense que l'idée aussi bien dans l'état de rêve que dans l'état de sommeil. Parce que dans l'état de sommeil, quand on rêve, c'était aussi pour lui la réalité. Donc, comment distinguer le réel du rêve? Eh bien, il a résumé cette je pense, donc aussi bien dans le rêve que dans le réel, je pense, donc je suis.
Je ne suis pas sûr qu'il l'ait écrit comme ça, mais d'accord. Je préfère ce qu'il a écrit plus tard, je suis, j'existe. Ouais. En tout cas, ce qu'on nous a, enfin moi, comme on l'a appris à l'école, c'était pas...
Oui, c'est dans le sens que ce moment-là...
Mais les premiers philosophes pré-socratiques... avait une perspective non-duelle très claire, très marquée. C'est pas du tout nouveau, cette perspective non-duelle. On en entend parler dans toutes les traditions, pas forcément sous ce nom-là. Mais le Dzogchen, ça s'appelle dans le bouddhisme, l'Advaita Vedanta dans l'hindouisme, même les mystiques chrétiens, c'est complètement là-dedans. Hein. Et les pré-socratiques, les philosophes au départ, avant Socrate, étaient des éveillés, a priori, vu ce qu'ils écrivent quand on les relit. Après, ça s'est perdu. Après, c'est devenu un discours autour d'eux. Après, c'est devenu des concepts mentaux. Au départ, c'était à mon avis. Vu comment moi je les lis, c'était un vécu direct. Mais bon.
Le rêve existe bien, puisque les psychanalystes s'en servent.
Ah oui, mais ça. Oui. Ben, et puis on boit de l'eau. Hein. Ça marche, tu vois. Au niveau du rêve, ça fonctionne. Mais si la nuit tu bois, ben, tu bois, tu vois. Si la nuit tu fais un truc, tu le fais. Enfin, dans le rêve, tu as vraiment l'impression de le faire. Ça a toutes les apparences de la réalité. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rêve, qu'un rêve est une réalité. Illusoire, mais une réalité quand même. Ce n'est pas définitivement réel. Et ce monde, c'est pareil. Il est réel, mais pas définitivement réel. Il est de nature illusoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre soin. Ça ne veut pas dire que si jamais j'essaye, ben je me suis pissé le sang, tant pis, le corps n'a qu'à mourir. Ça n'a juste pas de sens. Par contre, si le corps meurt, ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. C'est-à-dire ça, à la fois ça prend soin, à la fois ça a dans le sens de la vie, à la fois c'est comme avant, et à la fois ça n'a aucune espèce d'importance qui se passe. Tout est bon, plus exactement. Tout est bon.
Tout est bon, tout est juste.
Bah, vu d'un certain regard, tout est parfait tel que c'est, même les trucs les plus horribles. Mais ça, c'est encore pareil, c'est une question de regard. Ouais. Si tu veux, d'une façon générale, si on regarde, l'espace accueille tout. Soyez un instant avec l'espace. Il y a l'espace de la pièce, il y a l'espace qu'occupe votre corps, il y a l'espace que les murs occupent, il y a l'espace extérieur, mais en réalité il y a un seul espace. Il est apparemment séparé par des murs, mais l'espace il est aussi dans le mur. Et si on enlève le mur, l'espace il est tout le temps là. Il était là avant, pendant et après. Il y a un seul espace. Et tout apparaît au sein de l'espace. Pas d'espace, pas d'apparition. Tout apparaît au sein de l'espace, toutes les pensées, tous les crimes, toutes les plus grosses saloperies, toutes les meilleures choses. Et tout est accueilli au sein de l'espace de la même manière. Et quoi qu'il se passe au sein de cet espace, l'espace demeure inchangé. Je fais un geste dans l'espace, quand il est fini, c'est comme si c'était rien passé. On pourrait dire, oui. L'espace est pur accueil. Ce qui est contient l'espace. Aucun jugement. Le jugement est toujours une pensée.
Tout à l'heure, vous avez dit si le corps n'est plus là, c'est pas grave. Ça veut dire que si on meurt, on existe toujours.
Évidemment, ce que je suis, ni ne s'en vient, ni ne s'en va. Ce qui est, ni ne s'en vient, ni ne s'en va. Plus exactement. Cela qui rêve l'univers entier est évidemment entre guillemets éternel, hors temps. Et c'est cela que je suis, qui apparaît sous la forme d'un organisme appelé Gérard, sous la forme d'un organisme appelé je ne sais pas comment, mais sous la forme de tout le monde et tout le reste.
Continue d'exister.
Le on est presque de trop, mais ce que tu es, ce qui est, continue d'être, et tu es cela qui est.
Donc, on est quelque chose après la mort.
Évidemment. La mort est une parfaite illusion. Mais pas forcément, comme on pourrait le croire, du style je vais de vie en vie, ou pas forcément, j'insiste. En tant qu'individu séparé, mémoire psycho-émotionnelle, des choses comme ça. Tout dépend. Enfin non, ça ne dépend pas. C'est ce que l'on est et que l'on ne peut pas ne pas être n'est pas soumis à tout cela. Et ça ne peut pas ne pas être avec ou sans organisme. L'organisme apparaît en cet être-té et non pas l'inverse. Non, c'est une apparition au sein de ce qui est.
Bah, on n'est pas holocrane.
Pardon ?
Ils ne sont pas
holocrane. Hein, j'ai bien peur que si.
Hein ?
Tout est hologramme.
C'est
on prend... Mais on peut prendre n'importe quel millimètre carré de l'espace, millimètre cube de l'espace, il y a tout dedans. Hein. L'espace, c'est holographique. Mais, ben oui. Donc l'organisme aussi. Ce sont des... Nous sommes des hologrammes. Pardon ?
Nous sommes conçus sous une forme.
Non, la forme est conçue en ce que tu es. La forme est conçue en ce que tu es. Pour moi, c'est dans l'autre sens. Ma vision directe, c'est que c'est dans l'autre sens. Je ne suis pas cet organisme. Enfin, je suis aussi cet organisme, mais pas plus que plein d'autres choses. Cet organisme apparaît en ce que je suis. En ce que je suis. C'est pas ce que je suis qui apparaît dans l'organisme. L'organisme apparaît en ce que je suis. C'est dans l'autre sens. Mais ça, c'est pareil, c'est une question de regard. Hein. par opposition à des croyances. C'est-à-dire que si je regarde, je vois que ce que je suis ne dépend pas de cet organisme. On peut me couper un bras, il peut être vieux ou jeune, il peut être en bonne santé ou malade, c'est pareil, ce que je suis, je le suis. Et je ne suis pas moins parce que j'ai un bras en moins, ou une dent en moins, ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas l'organisme, en ce sens-là, je ne suis pas l'organisme, évidemment.
Oui. Ben si, parce qu'à regarder ce que quelqu'un quand coupe un membre, il a la sensation de toujours...
Hein, il y a une sensation de membre fantôme, mais ça c'est parce qu'il y a un phénomène physiologique. Mais est-ce que je suis moins? Est-ce que l'être-té est moins être-té? Vous avez enlevé une dent, les amygdales ou l'appendice ou je ne sais pas quoi? Vous coupez les ongles? Est-ce que l'être-té est moins être-té après? Cela qui ne peut pas ne pas être demeure semblable.
Ouais. Nous nous incarnons pour vivre des expériences. Où ça s'incarne? Ça s'incarne. C'est pas juste ce que je dis?
I don't know. Il y a incarnation, il y a expérience vécue. Est-ce que c'est pour? Je ne sais pas. Toute idée pour est liée à une pensée.
Ce que je veux dire, c'est que c'est avec nos pensées que nous évoluons, que nous progressons, que nous faisons des expériences, que nous réadaptons, que nous voilà. Donc c'est quand même avec les pensées qu'on progresse.
Vers où? Il y a l'idée d'une progression. Mais est-ce qu'il y a réellement progression? En tant que cela qui ne peut pas ne pas être. Revenez à cela qui ne peut pas ne pas être. Est-ce que vous voyez une progression?
Ça
élimine les couches. Ça élimine les
couches, oui. C'est une histoire de regard. Soit on s'en tient à l'être extérieur que je pense être, et je m'enferme là-dedans, et je suis dans la notion d'incarnation,
réincarnation,
de choses que je vis et tout ça.
Mais comme tu dis, soit je crois à cette pensée, que je suis cet organisme, et alors forcément je suis lié à tout ça, soit j'y crois pas, enfin, soit je dépose cette pensée, et je réalise qu'il y a juste être T, et que c'est pas lié à tout ça.
Je suis la mer et non pas la vague.
Ouais. Enfin, et je suis aussi la vague. La vague fait partie de la mer. Mais la vague est qu'un milliardième de fraction de la mer.
En fait, vous dites des choses très anciennes avec des milliards.
Oui, évidemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein.
Parce que quand le Christ dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ».
Exact. Et le buisson ardent qui dit « Je suis ». Et le buisson ardent qui dit « Yé, Hacher, Yé », qui dit « Je suis ce que je suis ». C'est la même chose. Et après, Moïse va voir Pharaon, lui dit « Je suis, m'a dit que ».
Et au tout début, il dit « L'éclaira, ça va vers toi ». C'est ça l'interprétation.
Et puis il a aussi été écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et se connaître soi-même, c'est connaître ce qui est, c'est pas connaître cet organisme. Ce que je suis en réalité. Évidemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a la manière de l'aborder et puis il y a la manière d'accrocher les gens, comme j'ai accroché un peu tout à l'heure à propos de la créativité, tu vois, où là on va aller voir, mais regarde de près, où il y a une porte ouverte pour aller saisir, pour aller voir que réellement il n'y a pas de moi. Et là, il y a quelque chose de un peu plus nouveau par rapport à ce qui se fait depuis pas mal de temps.
Apparemment, il y aurait différents niveaux de réalisation.
Qu'est-ce oui. que tu peux en dire? Mais pour moi, il y a, le bouddhisme reconnaît 4 êtres nobles. Il parle d'entrer dans le courant avec la réalisation de l'absence d'individus séparés, l'absence de moi, et l'absence de doute par rapport à ça, etc. Et puis il y a un deuxième être noble, un troisième, un quatrième, etc. Pour moi, il y a, d'après moi, ma vision, il y a deux sur et une évolution aussi, mais tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut passer directement à la deuxième phase ou rester coincé à la première ou bien évoluer petit à petit, tout est possible. Hein. Puis chacun rentre là-dedans à sa manière, c'est complètement individuel, à chaque fois, c'est chaque fois différent. Mais pour moi, il y a deux, comme deux réalisations, entre guillemets. La première, c'est réaliser l'absence d'individus séparés, l'absence de moi, l'absence de pilote à l'organisme. Et ça, du coup, il y a automatiquement retour à l'être-té, c'est-à-dire connaissance que je suis. Tu vois ? Et puis, il y a la seconde réalisation qui est réalisée que tout, absolument tout est illusoire, que tout cela n'est qu'un rêve, et que je suis cela au sein duquel le rêve apparaît. Je suis ce qui est. I am that. Je suis cela, de Nisargadatta Maharaj, ce m'a traduit par je suis en français, je suis cela, je suis ce qui est. Et où là, il est forcément vécu en permanence que tout est illusoire. Que c'est. L'impression, c'est qu'il n'y a rien là, y a sa voix à travers. Sa voix à travers l'univers. Et là, il n'y a pas de limite.
L'être-té, en fait, c'est la partie de nous qui reste vraie, après la mort. Est-ce qu'on parlait d'art tout à l'heure ?
Non, dis-le dans l'autre sens. De nouveau, l'organisme apparaît au sein de l'être-té. L'esprit. Le mouvement, le geste apparaît au sein de l'espace. Tu me dis, l'espace c'est ce qui reste une fois que le geste est fini. Non, l'espace était déjà là avant. L'être-té était déjà là avant l'organisme. C'est-à-dire que l'être-té se manifeste à un moment donné en tant que cet organisme, était l'autre, puis ça reste se manifester en tant que cet organisme, elle reste être-té. Elle a toujours été être-té avant, pendant, après. Simplement, il y a encore identification à l'organisme. Et tant qu'il y a identification à l'organisme, tant que ça colle à ça, il y a l'idée que je ne suis pas l'être-té ou que je vais peut-être le devenir un jour. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est ce changement-là qui est le premier réveil. C'est réaliser que je ne suis pas cet organisme, je suis l'être-té avant d'être cet organisme.
Donc, pour revenir à ce que je viens de dire, la pensée nous enferme dans la roue karmique. Elle nous empêche d'ascensionner, de simplifier.
Ascensionner, c'est un mot que, oui, tu n'aurais pas choisi, mais oui. Les pensées crues empêchent de réaliser que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Empêchent de réaliser que nous sommes cette être-té. Alors que nous savons très bien que nous le sommes, mais qu'on regarde. Waouh!
Tout dans ton parcours, enfin, je suppose que tu as rencontré des gens qui étaient, entre guillemets, éveillés.
Pas tout au long de mon parcours, seulement les dernières années. Oui, mais c'était.
Le fait de rencontrer t'as aidé toi à avoir se poser ce nouveau regard sur toi-même.
Ah oui, c'est sûr, oui. Évidemment, évidemment.
Le fait que toi, il y a un éveillé fait que ça nous rapproche de nous-mêmes.
À mon avis, la meilleure chose à faire, comme disait Ramana Maharshi, lui disait, c'est s'asseoir au pied d'un sage. Je ne prétends pas être sage, et bon Dieu, aucun de nous prétend être sage. Enfin, je le souhaite. Mais effectivement, être en contact avec des gens qui ont réalisé ne peut que favoriser. Et en même temps, si c'est là, parce que si jamais c'est pour se forcer à y être, c'est pas la peine. Hein. Autant éplucher des patates avec amour, ça marchera mieux. N'allez pas chercher compliqué. Allez vers là où est amené cet organisme. Allez vers là où cet organisme se sent bien. Votre maître, c'est là où vous vous sentez en paix. Ramana Maharshi. Comment est-ce qu'on reconnaît un maître ? Vous vous sentez à paix auprès de lui. Et si jamais c'est en épluchant des patates, votre maître, c'est la patate. Non, mais c'est vrai ce que je dis là. Hein. C'est vraiment ça. C'est aller là où vous ressentez la paix. Cette tranquillité, tranquillité paisible. C'est là, c'est ça votre maître. Et alors, bien sûr, après, côtoyer des gens qui ont réalisé et puis voir avec eux quelles sont des pensées crues, des gens qui vont vous aider. À revenir au corps, à les sensations, à déposer tout ça, évidemment que ça va favoriser. A priori, oui. Enfin, dans mon expérience, oui. Ouais.
J'ai aussi une question par rapport à la méditation.
Oui.
La pratique qui permet de voir, normalement, si c'est bien fait.
La méditation, normalement, est un exercice de vision, justement, de réouverture des yeux, si je peux le dire, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas toujours bien compris comme ça, mais personnellement, j'ai très peu médité dans ma vie. Par contre, la méditation pouvait me saisir à tout moment. Ou alors j'y revenais juste quelques secondes, mais 20 fois, 30 fois, 50 fois par jour. Mais installé à méditer, moi, cet organisme, il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que je dis, faites en fonction de ce qui vous parle, de ce qui est bon pour vous, quoi. En fonction de cet organisme, ne le contraignez pas à méditer si ça ne lui plaît pas. Essayez, insistez un peu, parce qu'il y a quand même des résistances peut-être à dépasser. Mais si ça continue, lâchez, faites autre chose. Ce n'est pas la peine. J'ai très peu médité, soyons clairs. Oui, être avec ce qui est là en vous, avec le mouvement de la vie tel qu'il cherche à se manifester à travers cet organisme. C'est ça le mieux.
La méditation, c'est la non-pensée.
C'est
la non-pensée.
Non. C'est le... Mais on ne peut pas ne pas penser. Arrêtez les pensées. Vous avez trouvé le bouton off, vous? Moi, je n'ai jamais trouvé. Hein. C'est beaucoup plus être, revenir à ce regard que l'on est, qui se porte sur ce qui apparaît dans l'organisme. Pensée, sensation, etc. C'est plus ce regard. Alors au départ, peut-être qu'il y a besoin de concentrer, il y a besoin de ci, il y a besoin de ça. Pour moi, c'est vraiment le regard. L'écoute, dirait l'autre, être avec, peu importe le mot, hein, de nouveau. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est vous installer, que ce soit un moment pour être avec ce qui se passe au sein de l'organisme. Vous êtes là, et simplement, par exemple, ben, vous êtes en contact, vous n'essayez rien de changer. Vous êtes en contact, il y a la respiration qui se produit, il y a l'air qui rentre et qui sort des poumons, il y a la cage thoracique qui bouge, le ventre qui bouge. Vous êtes avec ça. Il y a une pensée qui apparaît, il y a la pensée qui apparaît, vous la regardez, vous n'essayez pas de la chasser. Juste, ah tiens, il y a une pensée qui apparaît, et vous revenez à la respiration. Et puis la pensée crée une tension, ah ben il y a une tension, on va regarder la tension. Il y a un flot de pensée qui arrive, il y a une histoire qui revient, il y a des mémoires. Ah bah il y a des mémoires, ah bah il y a être avec. C'est pas simplement observer comme un observateur distant, c'est rencontrer directement, comme un bébé qu'on prend dans les bras, comme un enfant qui regarde des fourmis pour la première fois. Avec cet amour, cette délicatesse, cette tendresse, cette ouverture-là. Quoi que ce soit qui se passe, qui arrive dans l'organisme, être avec ça. Et ça peut se faire n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Hein. Merci.
Tu peux nous parler un petit peu de demain?
Demain, après-demain, eh bien, il y a un séminaire demain après-demain, 10h, 17h, on a dit, c'est ça? Avec pause, et dont le repas de midi ensemble. Repas partagé, préférence. Et eh bien, on va approfondir tout ça. Le but est vraiment de vous accompagner pour, enfin, entre guillemets, le but, avoir cette absence de moi, avoir que réellement il n'y a pas de pilote dans la vie. Parce que à défaire ces fausses croyances qu'on a tous, à réouvrir les yeux et voir, déboucher les oreilles et entendre. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Pardon ?
Beaucoup de stock.
Voilà. Merci. Bonne nuit, bonne soirée.